Ok, je viens de me rendre compte qu'on avait le son, mais pas l'image. parfois, il m'arrive de ne pas tout vérifier, en fait, de pas tout régler. Alors, on va régler ça tranquillement, de façon apaisée. On va, par exemple, désactiver cette caméra et l'activer. Ok, ça aurait été trop simple. Ok, on va aller voir derrière la caméra si elle est allumée. J'arrive, les amis.
Bougez pas, hein, je suis là, hein. On est bien. Hein.
Ok, donc là elle semble allumée par exemple. Ok. On va y arriver, on va genre la désactiver à nouveau, l'activer. Oh, c'est trop facile. Oh, c'est mignon, il y a Camille Tagueur qui a dit jolie tenue bleue, Sam. C'est-à-dire que t'as deviné avant, comment t'as su que j'étais en bleu? C'est Zerator qui m'a donné cette règle un jour. Samuel, même quand tu te douches pas, toujours changer de t-shirt d'un jour sur l'autre. Sinon ça se voit trop. Voilà. Donc j'étais en blanc hier soir, parce que petit stream hier soir. Et je ne vous dirai pas si j'ai pris une douche ce matin ou pas. Je ne vous le dirai pas. Non. Mais j'ai changé de t-shirt. Voilà. C'est Zera qui m'a appris ce petit truc. Donc on est en bleu. Voilà. Tain, c'est presque trop facile la manière dont j'ai réglé la cam là. Trop bizarre. Bon, comment ça va vous? AEG Apéris, merci pour le 4e mois d'abonnement. Pifomètre, joli pseudo, merci pour le 22e mois d'abonnement. Et je vois qu'hier soir, alors que je pense que je devais être moi-même en train de raid l'ami Kenny, qui était sur Rocket League d'ailleurs, qui a lancé un subathon depuis Montpellier, eh bien on a été raid par une belle chaîne, Parole d'honneur. Il y avait plus de 200 viewers qui sont venus avec nous. Et en fait, je ne l'ai pas vu sur Red. Donc, je propose d'aller voir cette chaîne, en fait. Parce qu'ici, on est curieux, en fait, on est curieux de tout. Et voilà, hop, la chaîne qui nous a raid hier, en toute fin de stream, et je ne l'avais pas vue. Voilà. J'aime bien aller voir les bios pour voir comment les créateurs de contenu se présentent. Oh, 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 oh. La présentation qui pique tout de suite, j'adore. Le stream le plus problématique de France. Mon avis, si on cherche bien, on va en trouver d'autres. Hein. Ici, ça parle très bien de décolonial, d'antiracisme, de politique, et ça joue très mal aux jeux vidéo. Vous connaissez cette chaîne, les amis? Je vois que certains ont fait des cauchemars avec du Antoine Dupont dedans. On va en parler, bien sûr. On va en parler, évidemment. Vous connaissez Parole d'honneur? Parce que c'est un joli raid, quand même, et je ne l'ai pas vu, et je trouve ça... je suis un peu tristoun, quand même. Voilà. C'est ce streamer-là, c'est un garçon. Il est là. Ouais. Connais pas, Camille? Tu connais pas? Bon, en tout cas, la prochaine fois, je ferai attention. Bizarre que ça m'ait échappé. Clamakin, qui est avec nous et qui sub pour un 15e mois consécutif. Et via Clamakin, c'est Mick Jagger qui nous parle, puisque Clamakin a cette capacité à littéralement prendre, se mettre dans la peau de n'importe qui, notamment leader des Rolling Stones. Bonjour Samuel, c'est donc Mick Jagger. Je voulais te dire à quel point la soirée avec GG. Alors GG, là il faut avoir, là il faut suivre l'actualité. Hein. Mick, GG, c'est le dîner au château de Versailles en l'honneur du roi Charles III, parce qu'il y avait notamment Gérard Larcher, président du Sénat, numéro 2 dans l'ordre protocolaire de la République, GG, et Mick Jagger, bien sûr. D'ailleurs, on va parler des sénatoriales aujourd'hui avec un article dans La Croix qui est très clair. Nous avons beaucoup en commun. L'amour des bons produits, par exemple, et surtout celui de chanter. Nous allons donc sortir un EP ensemble. Clamakin, merci pour le soutien. Et The Melopolo, merci pour le 17e mois d'abonnement. Non, GG, c'est pas... Non. Alors, la blague avec Mick Jagger et GG, c'est pas avec Darmanin. C'est vraiment avec Larcher. Là, il faut être un peu sur les réseaux depuis quelques jours, puisque il y a une photo incroyable. D'ailleurs, bah, je vais vous la montrer. Regardez, ici, c'est clairement pas Gérald Darmanin à gauche, ou alors Gérald Darmanin qui a... Voilà. Donc, c'est bien Gérard Larcher, c'est bien le président du Sénat. C'est une vraie photo, hein, c'est pas un montage. Avec les IA, maintenant, il faut se méfier. Tous les deux étaient invités à ce fameux dîner en l'honneur de Charles III au château de Versailles. Donc, alors, je précise, à droite, c'est Mick Jagger. Hein. À gauche, c'est donc Gérard Larcher, le président du Sénat. Et on va parler des sénatoriales. C'était chic, quand même. Hein. On a vu des photos de Gérard Larcher, limite en mode sexy, en fait, à ce dîner. Sans rire, en fait. Assez élégant. Assez élégant. Alexis a remarqué. Tiens, pourquoi. Ah, ben il n'y a rien qui marche ce matin. Je voulais vous montrer les journaux. Ah oui, mais. Tout à l'heure, c'était la caméra. Et maintenant, c'est le. Et maintenant, c'est le. C'est la capture d'écran qui ne marche plus. Ah, voilà. Oui, Alexis a remarqué la tasse de café à double paroi, le miel, comme dis-tu. C'est vrai que c'est un petit peu un luxe. Hein. Après, moi, je ne sens pas trop la chaleur. Je sens bien le froid, par contre. Et donc, mais c'est vrai que c'est assez confortable. Double paroi, voilà, parce que dans ces verres aussi, on le voit mieux d'ailleurs. Vous voyez, ça évite de se brûler. Allez, je vous lis parce que ça me met de bonne humeur. Et puis, je vais vous faire un petit sommaire aussi. Je vais vous raconter ce qu'il y a dans l'actualité. On va beaucoup parler de la visite du pape en France, à Marseille. Lui-même dit qu'il... C'est étonnant d'ailleurs. Le pape François, il dit bien, je ne viens pas en France. Je viens à Marseille. Alors, vous allez dire, what? Hein? Marseille, c'est en France. Ouais, mais les mots ont une importance, surtout dans le domaine de l'actualité. Et le pape choisit ses mots avec soin. Et vous allez voir pourquoi il dit ça. Voilà. Olive Big, merci pour le 16e mois d'abonnement. Vous avez beaucoup de pensées vers Antoine Dupont. Hein, on va en parler. On en a parlé hier soir, puisqu'on était en revue de presse hier soir, parce que j'ai pas pu streamer hier matin. On a suivi avec certains viewers et certains modos qui nous donnaient chaque essai français face à la Namibie. Et il y a eu des essais. À un moment, il y avait plus de commentaires sur le rugby que sur les actualités que je suis en train d'évoquer. On a suivi ce match. Ce score fleuve, qui est un record pour le 15 de France, un record de points. Et là, ce match terni par la blessure d'Antoine Dupont. Et ça n'est pas une très bonne nouvelle. On va en parler. C'est un classique, ça. Certains ont des enfants en bas âge. Du côté de l'île ou Rennes, il y a un bébé Marley qui n'a pas du tout adopté sa nouvelle chambre. C'est normal, c'est un classique. Il a donc fini à ma place dans mon lit et moi sur le canapé. C'est normal. Je vois un bonjour d'Alicante qui me fait bien plaisir. Salut Fan. Alors Leroy, il n'y a pas d'article là-dessus. Et je pense pas qu'il y en aura en vrai. Mais j'ai suivi ce projet de musée du jeu vidéo initié par le youtubeur Ici Japon. Alors j'ai même vu que ça avait fait un carton. J'ai vu d'ailleurs qu'une vieuse adorable avait attiré mon attention là-dessus pour que j'en parle, que je donne de l'écho à cette initiative. En vrai, eh ben, il va pas y avoir besoin, hein, puisque la collecte de fonds est allée bien au-delà des objectifs. Vous avez suivi cette actualité? Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, hein, à I17, je suis un peu déçu de ne pas lire dans la grande presse, comme tu le dis, d'articles à propos du sujet du projet de musée Odyssée. Hein. Ils ont levé presque 500K en deux jours. J'ai 300 là sur... Ah non, on s'approche des 500 maintenant. Oh, ça va tellement vite. Voilà, donc c'est ce YouTuber qui vit au Japon. Hein, c'est ça, c'est lui. Hein. C'est Tev, c'est ça. Ah, le réel objectif, c'est 500K. Ok. D'accord. Parce que, alors le réel objectif, je sais pas, mais l'objectif sur la page de collecte, c'est marqué ici, c'était 50 000 euros. Alors, peut-être que le vrai objectif, c'est 500K. Mais l'objectif qui avait été affiché par le streamer, là, c'était 50 000. 50 000, c'est écrit ici, vous voyez, pop, juste en dessous, en petit, là. Et donc, là, on était à 310 000, ce qui est énorme, et d'après ce que je vois, on est en train d'approcher les 500 000. Alors, Amélie Flash me dit, l'objectif de base est de 500K. Pour avoir le musée permanent, ils cherchent à récolter plus. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis 50 000 en objectif si l'objectif réel, c'était 500 000, voire 1 million. MDF me raconte un petit peu les coulisses de cette histoire. À la base, il cherchait à vendre sa collection l'an dernier, mais comme il ne l'a pas vendue, il veut faire un musée avec. Okay. Ah ok, 50K, c'était pour une expo temporaire. Les petits paliers, me dit Graham FR, étaient des paliers de consolation. L'ouverture du musée est à mini 500K. Okay. Oh, ok, ok. 471 687 euros, donc on y est presque. Hein. C'est MMG qui me donne le chiffre. Major Tom, tu as les replays gratuitement sur la chaîne YouTube. Voilà, tous mes replays de stream sont gratuitement sur ma chaîne YouTube. Ok. Voilà. Racontez-moi un peu cette histoire alors. Parce que manifestement, vous connaissez bien le sujet alors. Merci Silislou pour le 9e mois d'abonnement. Ah, parce que si tu n'as pas atteint un premier palier, tu perds toute ta cagnotte, c'est possible ça, me dit Guillaume ? C'est chelou, ouais. D'accord. Ils ont fait crasher la page KissKissBankBank pendant quasi 24 heures, me dit Amélie. Ah, je veux bien. Ok, tu peux aller voir la vidéo de Ici Japon, il explique tout. Est-ce que... Donc là, je suis sur son compte Twitter, je vais sur sa chaîne YouTube. Regardons ensemble. Ça, c'est autre chose. On ouvre un musée du jeu, elle est là, on l'a trouvé en deux secondes. Ça a été lancé il n'y a pas longtemps. Hein. Cette vidéo, elle a un jour. On ouvre un musée du jeu vidéo en France. Ok, bon, il n'y a pas d'article. Eh ben, c'est pas grave. On va se regarder la vidéo. Ça vous va? On fait ça? Certains, Tsubasama me dit, certains disent que c'est le meilleur projet de l'année. Ah, ok. Alors déjà, explication, avant de lancer la vidéo de Serfindra. C'est pas Tev qui a la collection. C'est un collectionneur français. Tev l'a contacté pour voir comment mettre en valeur la collection. Il y a une vidéo explicative sur la chaîne Ici Japon Corp. On regarde. Major Tom, je vois que tu es abonné par ailleurs. Donc toi, tu as les replays sur Twitch. Hein. Major Tom me dit, ouais, mais c'est relou de regarder sur YouTube. Major Tom, on est d'accord que toi, tu es abonné. Donc tu as accès à tous les replays sur Twitch. Hein. Ou alors, il y a une info que j'ai pas. On regarde ça. Hop, je mets en mode YouTube. Regardons.
Ça fait des mois qu'on en parle et il est finalement temps de lancer ce projet un peu fou d'ouvrir un musée du jeu vidéo en France.
Pause. Major Tom me dit qu'il est sur la page de Papy Sam et ne voit pas les replays. Je pense que c'est un petit bug chez toi. Allons voir. Attends, on approche des 600 000 followers, hein, quand même. Alors, ok, je ne sais même pas. Allez voir. Il y a un bug ou quoi? Ah, c'est important. Vidéo, voilà, ici. Bah si, il y a tout, regarde. Hier soir, il y a deux jours, toc, voilà. Il y a tout. Diffusion récente, toutes les vidéos, on va regarder, paf. C'est bizarre quand même. Voilà, là tu as le dernier samplet avec Kenny, Rocket League, le dernier hebdo Étienne, t'es une dinguerie. Si, il y a tout. T'as tout, regarde. T-shirt bleu, t-shirt blanc. T-shirt blanc, là j'ai pas pris de douche. T-shirt bleu, non ça marche. Ok, d'accord. Bon, tu m'as fait peur quand même. Allez, retournons voir ce joli projet.
D'ouvrir un musée du jeu vidéo en France. Ce que je vous annonce là, c'est enfin le lancement du financement participatif qui...
Pop, pause, certains me disaient qu'il y avait avant un musée du jeu vidéo en France, mais qu'il aurait fermé. Quelqu'un me donnait cette info qui est intéressante. C'est IGLX. Il y avait déjà un grand musée de la console, plus précisément en Alsace, mais malheureusement fermé. Ok.
Je l'espère, va nous permettre de concrétiser tous ensemble cette idée extrêmement ambitieuse, mais pourtant tellement logique d'avoir un musée du jeu vidéo en France. Et je ne dis pas tous ensemble avec légèreté, parce que c'est vraiment un projet commun. D'ailleurs, c'est votre idée. On va y revenir, mais vous le savez, pour beaucoup, l'impulsion vient de vous. Et aussi, bah, toute l'aventure va être documentée sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Vous saurez tout.
Il parle vachement bien. C'est vachement clair.
Vous aurez aussi votre mot à dire. Et ça, je vous en parle dans quelques minutes, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler du projet, de combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme argent, hein. Des contreparties incroyables auxquelles vous aurez droit si vous nous aidez. Mais avant ça, première chose, il faut juste que je vous dise merci. Parce que cette idée du musée, qui finalement sera bien plus qu'un musée, hein, vous allez voir.
Je sens qu'on va faire une petite expo Étienne dans ce musée.
Ça sort pas de nulle part. Et depuis des mois et des mois qu'on travaille dessus, toute la communauté que vous formez s'est mobilisée déjà pour parler du projet à droite à gauche. Merci pour ça. Et aussi pour participer d'une manière ou d'une autre. J'ai parlé avec beaucoup de spécialistes qui travaillent dans les musées, par exemple des scénographes, des archivistes. Il y a aussi des personnes qui nous ont aidés pour faire des bilans prévisionnels à base de tableaux croisés dynamiques pour faire des illustrations, pour faire des documents à présenter à d'éventuels partenaires. J'ai parlé à des collectionneurs, à plein de gens pendant des mois et des mois. Et c'est à vous, en fait, que j'ai parlé. Donc,
putain, sacré taf quand même, hein. C'est fou, hein.
Merci, le projet quasiment en entier a été réfléchi et mis en place, en grande partie, grâce à votre expérience et votre temps. Donc rien que ça, déjà, c'est fou, qu'on soit clair, réunir autant de compétences dans autant de domaines différents qui bossent tous dans...
Petite question, certains me parlent d'un musée du jeu vidéo qui était à la Défense. Est-ce qu'il est toujours ouvert? Est-ce qu'il est bien?
Dans le même sens pour un projet passion, hein, c'est assez dingue. En 2-3 minutes, avant de vous parler du financement, je vous refais un peu l'histoire du projet Odyssée, parce que c'est comme ça qu'on l'a baptisé, qu'on soit tous à la même page, parce que c'est important. L'été dernier, un collectionneur français...
Bon, l'histoire, elle est super. Attendez, je vais aller suivre sa chaîne déjà, qui s'appelle Ici Japon Corp. Si je ne la suis pas déjà... Je suis déjà. Je me demande si on ne s'est pas déjà parlé d'ailleurs. Ok, pardon pour la petite pause. Donc là, il va nous raconter l'histoire. Ça a l'air vachement intéressant. Hop, je remonte quelques secondes. Voilà.
Qu'on soit tous à la même page, parce que c'est important. L'été dernier, un collectionneur français met en vente sa collection de consoles sur eBay pour un prix de 1 million de dollars. Sa particularité de cette collection, c'est qu'elle compte plus de
1 million de dollars ?
200 pièces, 2200 consoles, c'est largement la plus grande du monde de ce type. Donc forcément, ça parle un peu dans les médias et vous êtes extrêmement nombreux à me partager cette histoire, sachant que moi-même, je collectionne les consoles. C'est des messages qui me disent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut racheter la collection, qu'il faut faire un musée, qu'il faut faire un crowdfunding, n'importe quoi, du moment que la collection ne se retrouve pas éparpillée aux quatre coins du monde ou rachetée par un youtubeur américain. Ou...
L'histoire est incroyable. On me donne des nouvelles du musée du jeu vidéo de la Défense. Il a fermé, me dit Captain McBernick, en raison d'un incident d'ascenseur. Ça me rappelle quelque chose. Hollywood Ad, merci beaucoup pour le 19e mois d'abonnement. J'espère que je ne loupe pas de sub. Je vais y revenir. On écoute la vidéo.
Ou un émir de Dubaï, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe pour les grosses collections. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour garder ça en France, cocorico. Je vous l'avoue, au début, je n'étais pas convaincu parce que, bon, déjà, je n'ai pas un million à mettre dans des consoles. Je n'ai pas assez de zéro dans mon budget. Et aussi, j'ai une petite idée de combien c'est difficile d'ouvrir un musée. Ce n'est pas une simple aventure, mais sous la pression de vos messages, j'appelle quand même Ludovic qui a cette collection et qui me surprend assez rapidement parce qu'il me dit cash que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de vendre sa collection. En fait, il ne cherche pas à gagner de l'argent. Ludovic, en fait, il collectionne surtout par plaisir de rechercher les consoles. Au bout d'un moment, c'est un vrai travail d'enquêteur qui se passe sur tous les continents différents. C'est passionnant. Et son objectif final, en rassemblant tout ça, c'était à la base d'ouvrir un musée. Mais là, il arrive à un point où c'est juste trop dur d'ouvrir un musée par soi-même. Et sa collection lui prenait déjà 300 mètres carrés. Donc, c'est difficile de stocker ça dans de bonnes conditions. C'est difficile de tout préserver. Et aussi, c'est de plus en plus difficile de continuer sa collection tant les prix explosent. Ça a facilement fait x10 depuis qu'il a commencé sa collection il y a plus de 20 ans. Et d'année en année, ça augmente. Mais il préfère 1000 fois que tout le monde puisse profiter de sa collection et aussi participer à mettre en avant tout un pan de notre culture à tous, plutôt que de la vendre, quel que soit le prix. Donc, c'est un passionné avant tout.
L'histoire est incroyable. Alors, parfois, je suis attiré par les détails. Pour Tav ici, là, qui fait la vidéo, je regarde juste la qualité de la petite déco de studio. Je ne sais pas si c'est son studio habituel. Vous notez la jolie déco. On voit un billard derrière. Voilà. On voit de beaux éclairages. J'aime beaucoup la façon dont il est éclairé. Et on a... pourtant, on est en petit micro à chef tout simple. On a un très bon son. C'était à Tupanet, me dit, c'est son studio habituel. Waouh, c'est super beau. Hein.
Et c'est en parlant avec lui et en se rencontrant plusieurs fois qu'on a mis en place une stratégie. Et début 2023, j'annonce qu'on veut ouvrir un musée du jeu vidéo. Un projet de crowdfunding qui fonctionne bien, je sais que ça peut faire parler et ça peut éventuellement faire bouger les choses. Là, il se trouve que le jour même où j'annonce qu'on lancera dans le futur un crowdfunding, tout s'emballe déjà. En fait, je reçois des emails à l'appel de collectionneurs, de marques, de communes, d'associations, de plein de gens. J'ai des demandes d'interview alors qu'on n'a même pas commencé le financement participatif. Genre, personne n'a même envisagé qu'on pourrait se planter et récolter 500 euros. Donc à ce moment-là, je me rends compte que l'attente qu'il y a autour de ça est énorme. Et maintenant, c'est à nous d'assurer en fait pour que tout aille bien et dans le bon sens. On n'a surtout pas envie de décevoir, donc il faut vraiment proposer quelque chose d'exceptionnel qui ne décevra personne. Que ce soit le vétéran du jeu vidéo qui collectionne depuis 30 ans ou un enfant qui joue à Minecraft, il faut vraiment qu'on assure et que dans les yeux de tout le monde, il y ait des étoiles. Et surtout, il faut qu'on fasse quelque chose qui dure dans le temps. Il faut que ce soit tellement bien que les visiteurs y reviennent, qu'il y ait des voyageurs qui viennent d'autres pays pour voir le musée. Et il nous faut un business plan qui soit solide comme le roc.
Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de regarder une vidéo de Tev, streamer français installé au Japon, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait a épaulé un collectionneur pour lui permettre de créer son musée du jeu vidéo. Voilà, on a déjà près de 500 000 euros collecté en quoi, un jour, deux jours, ça m'a semblé très rapide quoi. Et donc il est en train de raconter toute l'histoire, ce qui est vraiment passionnant. On continue.
Pour que même nos petits-enfants puissent profiter de tout ça, en admettant qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale d'ici là. Le projet, je vous en parle enfin. Alors déjà, je vais vous décrire le projet idéal. Et ensuite, je vous dis quels sont les paliers et de combien de thunes on a besoin pour faire quoi, et aussi quelles sont les contreparties pour ceux qui participent, parce que c'est hyper important, surtout qu'on va bien vous saucer. Alors, déjà, c'est très important, on vous parle de musée, mais c'est parce qu'on n'a pas de meilleur mot pour ça. En fait, imaginez pas un musée comme un musée de type statique avec des consoles dans une vitrine, on regarde ça et puis voilà, on a appris deux, trois trucs, c'était sympa, mais finalement, si t'es pas un collectionneur, c'est un peu chiant. C'est évidemment à tout prix ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut faire, c'est proposer une vraie expérience dans des...
Petite pause sur qui est Tev qui nous parle ici. Spatupanet nous donne plein d'infos précieuses pour moi. C'est surtout un entrepreneur, donc streamer, surtout entrepreneur, qui était globetrotter, qui s'est installé au Japon il y a bientôt 20 ans, qui s'est marié, qui a eu 3 enfants, dont un s'appelle Link. J'adore.
Décor de fou où on peut jouer, où on peut interagir, où on peut s'amuser, on peut prendre des photos et c'est beau partout avec des easter eggs à droite à gauche, avec une petite aspect peut-être de chasse au trésor, des infos intéressantes sur ce qui est exposé parce que la plupart des jeux et des consoles ont une histoire de fou et on peut littéralement écrire une vidéo YouTube ou même un épisode de série Netflix sur certaines consoles qu'on va exposer. Donc on a envie de mettre tout ça en valeur du mieux possible et quel meilleur support que le jeu vidéo pour justement construire un musée qui soit interactif, qui nous plonge dans un univers incroyable avec une aventure passionnante. Enfin, je veux dire, on a tout pour faire un musée exceptionnel, si bien que le terme musée, je pense, ne correspond pas. On ne veut pas faire non plus un parc d'attractions. Il y a quand même une certaine valeur historique. On veut mettre en avant l'histoire du jeu vidéo. Mais voilà, musée, pour moi, ça ne correspond pas. On vous a demandé votre avis. Personne n'arrive à trouver un terme, je trouve, qui correspond. Donc, je pense que ça n'existe pas. On va dire musée. En plus de ça, on aura aussi une grande partie qui sera dédiée à des expositions temporaires et à des événements parce qu'il est hors de question de parler uniquement du passé avec tout ce qui se passe tous les jours dans tous les domaines, les grands titres qui sortent, les nouvelles consoles, admettons, les events, l'e-sport, bref, tout ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, il faut évidemment en parler. On aura aussi enfin une salle dans laquelle on pourra organiser des events, des tournois, nous ou d'autres créateurs ou d'autres professionnels. Hein.
Attendez, on sait déjà où ça va être ce musée. Alors en France, ça j'ai compris, mais on a une idée du... Non, c'est trop tôt sans doute. Dans la journée, je vais évidemment retweeter, reposter cet appel à financement. On sait dans quelle ville ? Bussy-Saint-Georges ? Ok, c'est en région parisienne ça, je crois, non ? Il va en parler ? Attendez, je vais aller voir. Bussy-Saint-Georges, c'est où ? Je crois que je suis allé faire des fêtes là-bas, quand j'étais jeune. Ok. Allons voir. Allons à Bussy-Saint-Georges. Ok. C'est où Bussy ? Là, je l'ai. Bussy-Saint-Georges, là au milieu. Ok, d'accord. Ok, ok. Ok. Donc, ok, on voit là. Ok. Ah, oh, c'est... Ok. Ok, en vrai, c'est pas très loin. C'est pas très loin, hein. Près de Disney. Ok. RER plus A4, ok. Ok, ok, ok. Ok, donc c'est pas très loin de Paris. Ok. Merci. Pardon. Chemical, what the fuck. Merci pour le 25e mois.
Il y aura aussi cette salle à une salle de conférence pour faire des annonces, pour faire des genres de TEDx autour du jeu vidéo, etc. Vous le voyez, c'est un beau, gros projet très ambitieux. Et ça, c'est à peine la moitié. Parce que le problème numéro 1 d'un musée, une fois qu'il est ouvert, je vous le dis, c'est de rester ouvert. Parce que ça coûte très cher à mettre en place, mais ça coûte autant à faire fonctionner dans le temps. Les billets d'entrée et les subventions, ça ne suffit pas. Donc, notre idée, ce qu'on propose, c'est en plus du musée, qui déjà couvrira un bon 1000 m² de surface, voire plus, donc truc très très conséquent, on ouvrira un village japonais, au moins aussi grand, dans lequel vous aurez des restaurants,
wow,
des magasins, des activités, tout ça autour du Japon et de la culture populaire. Et ces activités aideront à financer le musée qui pourra du coup perdurer dans le temps et même évoluer et devenir de mieux en mieux. On aura donc deux activités au même endroit, deux activités a priori uniques en France.
J'y vais, moi.
Qui vont se compléter parfaitement pour se booster mutuellement. Imaginez une famille qui vient au musée du jeu vidéo, elle pourra se prendre sur place un bol de ramen et croyez-moi que ce bol de ramen, ce sera le meilleur bol de ramen qu'elle aura mangé de sa vie parce qu'on ne rigole pas avec la bouffe, d'autant plus avec la bouffe japonaise. Et vice-versa, quelqu'un qui viendra sur place pour par exemple acheter une figurine ou des mangas pourra au détour s'arrêter pour voir l'exposition temporaire qu'il y a au musée. Il y aura toujours des events, il y aura toujours des trucs à voir, des trucs à faire. Imaginez la dinguerie qu'on peut faire.
Hâte déjà de faire un stream exposition Étienne là-bas, quoi.
Et c'est pas tout. je ne pouvais pas en parler jusqu'à maintenant, mais c'est officiel depuis aujourd'hui. Le projet Odyssée sera inclus dans un projet encore plus vaste dans lequel il y aura plein d'activités complémentaires. C'est incroyable la chance qu'on a. Ce sera que des projets en rapport avec le jeu vidéo, l'e-sport ou plein d'activités modernes qui parlent déjà à pas mal de monde. C'est un des projets en développement parmi les plus ambitieux de France en ce moment et on a la possibilité d'être intégré dedans. Je vous le dis très honnêtement, c'est impossible à l'heure actuelle de réunir de meilleures conditions pour faire ce qu'on veut faire. On est au top du top. Et je pense que vous commencez à comprendre.
Il y a un moment de la vidéo où il dit qu'il rachète Paris, c'est ça ? Où il rachète la ville de Paris pour pouvoir construire tranquillement son truc ou pas ? Il y a un moment où il dit ça ou pas ? Parce que là, ça monte. Ça monte.
Quoi, il a fallu des mois de travail en amont avant de lancer ce financement participatif parce que tout est bouclé là. Tout est prêt. Tout est négocié. Concrètement, qu'est-ce qu'on a ?
Le taf de fou.
Déjà, on a la plus grande collection de consoles au monde. C'est pas rien. Ça nous servira de bonne base pour le musée, mais ce ne sera pas tout parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais on a aussi des ordinateurs, beaucoup de jeux, même de jouets. Par exemple, Nintendo, Sega, leur histoire commence par des jouets et il faut raconter ça aussi.
Je connais un petit Malo à la maison qui aimerait bien aller là, je crois.
Aussi, on peut trouver des bornes d'arcade. On a beaucoup de choses à exposer, mais aussi beaucoup de choses à manipuler pour jouer, pour comprendre, etc. S'il faut, je mets une partie de ma collection à dispo aussi. Je le ferai évidemment avec grand plaisir et je sais que d'autres collectionneurs aideront aussi. Bref, vous n'aurez jamais nulle part ailleurs une collection aussi complète, c'est certain. L'emplacement, extrêmement important l'emplacement.
Bussy.
Comme commune, pour accueillir le projet Odyssée, on a choisi Bussy-Saint-Georges. C'était hors de question de s'installer dans une commune qui ne soutient pas à fond le projet et je peux vous dire que ce serait très difficile de trouver plus motivé et plus engagé que cette ville. Bussy est arrivé le jour même ou le lendemain de l'annonce qu'on voulait ouvrir le musée. On a un abonné au conseil municipal qui immédiatement a fait toutes les connexions entre ce qu'on voulait faire et le timing parfait qu'ils avaient pour l'ouverture de leur pôle ludique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui développe dans la ville. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment les abonnés qui ont structuré tout.
Merci gros le mage, merci pour le 19e mois. Pardon à ceux que j'oublie, je vais vous citer tout à l'heure. Merci pour le soutien.
Projet, il n'y a aucune blague là-dedans, c'est vraiment très premier degré ce que je dis. L'emplacement en lui-même est idéal et je vais vous dire pourquoi. En fait, si on veut donner un rayonnement national, voire même international au musée, c'est plus facile, évidemment, si on est à Paris ou en région parisienne. Je sais que chacun aimerait que ça soit dans sa ville, mais c'est factuel. Hein. Si on veut attirer plus de public, plus de professionnels, c'est dans la capitale que ça se passe. Bon, Paris même, c'est juste impossible. Les prix sont beaucoup trop élevés et même si tu as les moyens, de toute façon, il n'y a pas de surface aussi grande de libre que ce qu'on a besoin.
Pas y a mon appart, mais j'y vis, quoi, donc c'est pas possible. Donc effectivement, il a raison, il n'y a pas de place.
Et si jamais tu trouves quelque chose, c'est absolument pas adapté à recevoir un musée. Je vous l'ai dit, les normes, quand on parle d'accueil du public, sont extrêmement extrêmes. Là, on est juste à quelques dizaines de minutes de Paris. C'est bien desservi par le RER A. C'est pas le pire.
Ah ouais, c'est plus près de Paris que Disneyland. C'est sur la même ligne de RER que Disneyland ? C'est très bon, ça. C'est très bon. C'est la même ligne ? C'est le RER A, c'est ça ? Ah ouais. Ok. 30 minutes de Paris, 5 minutes de Disneyland. Ok. En vrai, c'est cool. Hein. C'est parti, hein. J'y vais avec mon 4x4 à charbon, avec les enfants, c'est parti.
National et aussi l'autoroute avec une sortie pile sur le musée. Sur place aussi, il y aura un énorme parking et encore une fois, plein d'activités à côté. De fait que vous ne venez pas que juste pour le musée, mais vous pouvez passer la journée, voire deux jours sur place, il y aura plein de trucs à faire. En plus, Bussy, c'est hyper dynamique, c'est en plein développement. C'est juste à côté de Disney, pour ceux qui ne connaissent pas.
Et j'ai fait des teufs à Bussy-Saint-Georges, c'est une autre histoire, je vous raconterai un jour.
Et ils veulent vraiment axer leur développement en prenant en compte tout ce qui touche la culture populaire. Donc, c'est pile ce qu'il nous faut. En plus de ça, on a aussi le soutien de l'entreprise qui va développer le pôle ludique, l'entreprise qui va construire, aménager le terrain et nous accueillir. On a rencontré tout le monde, et pas qu'une seule fois, et ils sont tous prêts à mettre du leur pour qu'on puisse avoir l'endroit qu'on veut, tel qu'on le veut, tel qu'on en a besoin, dans des conditions super avantageuses pour nous. Et tout pourra être réfléchi selon nos besoins. On discute déjà depuis plusieurs mois pour rien vous cacher. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment le plus difficile. Parce qu'il y a eu des tentatives de musées du jeu vidéo en France dans le passé. Une a duré une semaine et une autre environ 3 ans. Il y avait plusieurs problèmes, j'en suis sûr, mais un des problèmes principaux, c'est qu'ils n'avaient pas le soutien que nous, on a réussi à mettre en place pour cet événement, pour ce projet. Le lieu qu'on aura à notre disposition sera un endroit neuf qui n'est pas encore construit, donc on pourra l'adapter en fonction de nos besoins.
Pardon, vous avez sûrement l'info, ça sort du sol quand ? Ils pensent que ça peut naître quand, ce musée ? 2024, 25, 26 ? 26 ? Ok, 2026, ouais, ok. C'est dans pas longtemps. Hein.
Il sera aussi plus facile à mettre aux normes dès le départ, et ça c'est crucial, croyez-moi. Et on sera locataire d'une surface au sol de 3500 m². Et on peut en faire...
Bon, c'est moins que mon studio de stream, mais 3000 m², tu peux commencer à faire des trucs.
Faire ce qu'on veut. Ça veut dire que même si on prend en compte les grands espaces de stockage, des bureaux, etc., on a un bon 2500 à 3000 m² pour construire un musée et un village japonais. On peut vraiment se faire plaisir. Et ça, c'est si on fait un étage. Rien ne nous empêche d'en faire deux, à part la thune. En vrai, c'est une vraie folie ce qu'on a imaginé. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est le projet idéal parce que tout ça va coûter beaucoup d'argent.
Ah.
Sur la page de KissKissBankBank, vous avez tous les paliers de financement qu'on a mis en place. Petite parenthèse, chez KissKiss, ils sont aussi fans de jeux vidéo et ils étaient présents devant la vidéo d'annonce du projet au début d'année. Donc, les paliers, les voici.
Ah.
Premier palier, il est à 50 000 euros. On ne va pas ouvrir un musée avec 50 000 euros,
non.
C'est sûr, surtout après tout ce que je viens de vous dire. Mais si on atteint ce palier, c'est déjà une belle somme. Ça nous permet déjà, avec Ludovic, de faire une exposition temporaire de sa collection le temps d'un week-end et tout le monde pourra en profiter. C'est déjà une première victoire. Ce serait bien cool parce que ce serait l'occasion déjà de se rencontrer et d'organiser quelque chose de sympa. Et en plus, l'objectif de montrer cette collection à tout le monde est rempli.
Cool.
Le deuxième palier, il est à 250 000 euros. À partir de ce palier, on peut faire une exposition temporaire qui est déjà bien plus grande, bien plus travaillée et plus longue qu'un week-end. Et on fait aussi avec un event de type Matsuri, comme on a envie de l'appeler, c'est-à-dire qu'on fait notre petit village japonais avec plein d'événements qui sont liés au Japon, à la bouffe japonaise évidemment. Donc on réunit les fans de jeux vidéo et aussi la communauté ici Japon pour faire une grande fête. En fait, non seulement la collection là, elle est bien mise en valeur, mais en plus peut-être aussi qu'on peut attirer l'attention et trouver une solution qui soit plus long terme parce que si on arrive à ce palier-là, ça veut dire quand même qu'il y a des milliers de personnes qui ont soutenu le projet.
On rappelle qu'ils sont déjà à quasiment 500 000 euros collectés. Vous êtes nombreux à me dire que si KissKissBankBank n'avait pas craché dans les premières heures de la collecte, il serait déjà beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas terminé, je pense. Hein.
Et ce n'est pas rien. Troisième palier, 500 000 euros.
Ah,
alors, c'est là que les choses sérieuses commencent, autant au niveau projet qu'au niveau chiffres. On sait que c'est beaucoup d'argent, mais on ne va pas vous raconter de salade. Hein. C'est vraiment la somme minimum qu'il faut pour arriver à démarrer un musée. Gardez aussi à l'esprit que sur la somme qu'on récolte, il y a environ la moitié qui nous revient et la moitié qui part ailleurs, hein, parce que bah, l'État prend 20%. Il y a les contreparties qu'on doit faire et vous envoyer. Il y a le pourcentage.
Alors, les contreparties, ça c'est pour les gens qui donnent des sous, ok. Le projet 50%. TVA 20%, c'est-à-dire. TVA 20%. C'est-à-dire que dans les. Je comprends pas. C'est mon côté journaliste, toujours à vérifier ça. Non, mais pour l'État, je comprends bien que la TVA, c'est pour l'État. Mais pourquoi 20% qui partent à la TVA sur les dons Sur tous les achats, il y a 20% qui part. Oui, mais c'est de la construction. La construction, c'est pas 20% de TVA. Ouais, Villebrequin, c'était pareil, me dit Jésus. Ça me rappelle la collecte de Villebrequin pour le Multiplat, ça. Ah, c'est normal, c'est pas un don, une assos. Ok. Car c'est pas de première nécessité. Ok, c'est pas un don. Oh la vache, 20%. Mais TVA, taxe à la valeur ajoutée, je suis pas sûr que ce soit la TVA. Alors TVA sur les dépenses, oui, mais si c'est du bâtiment, la TVA est pas à 20%. Hein. Si ? Je crois pas. Construction à haut dans... Taxe en général, ouais, bah, moi, en fait, j'aime pas le mot. Quelqu'un me dit, ah, c'est taxe en général, donc il veut dire TVA. Alors, moi, j'aime bien que ce soit précis, puis j'aime bien où va l'argent des gens, surtout. Alors, financement participatif, on me dit que c'est 20% de TVA. Alors, désolé, mais on fait une pause là-dessus. C'est important.
Ok.
TVA. Et comme ça, on va apprendre un truc. On va peut-être apprendre que l'État prend 20% sur nos financements participatifs. Ce qui est, pardon, mais ce qui est scandaleux. C'est ça qu'on va peut-être découvrir. Voilà. Crowdfunding. Les secrets de la comptabilisation d'un crowdfunding, financement participatif et son traitement fiscal. Est-ce que c'est bien fait ce site? Le traitement comptable, ok, d'accord. Le traitement fiscal. Ok. Bon, pas très clair ça, pas très clair. On va taper plutôt KissKissBankBank, ça ira plus vite, hein. Allez, on va taper TVA KissKissBankBank. Allez, hop, let's go. Bon, on va trouver, on a le temps. C'est quand même une info simple en fait. Je devrais le trouver en 2 secondes. Ah, doit. Ah, si. Ok, donc déjà l'introduction dit que c'est complexe. Non. Il faut remplir un truc. La TVA s'applique pas. Ok, me dit le site de KissKissBankBank. Ok, je suis pas avancé là. On va trouver. Allez, je suis sûr que vous avez l'info, vous, parce que vous êtes des champions. On essaie de comprendre pourquoi il y a 20% de TVA qui part là-dessus. Je trouve que c'est énorme. Alors, Provençal de Galois, merci. Je pense que tu cites un texte public. Si une société assujettie la TVA dans le cadre de son activité obtient des fonds sur une plateforme de crowdfunding, donc c'est ça, elle réalise alors sur la plateforme une vente soumise à la TVA lorsqu'elle délivre des contreparties. Ah ouais, mais c'est sur les ventes de contrepartie, la TVA. C'est pas sur l'ensemble du truc. Donc ça ne me va pas. Parce que d'après ce que tu me dis, les 20% de TVA s'appliquent aux contreparties, aux goodies qui sont vendus. Ce qui me semble assez normal, d'ailleurs. Hein, c'est la phrase. Pardon, hein, mais c'est important. Peut-être qu'il le dit dans la vidéo, ouais, peut-être, ouais, on va regarder. Attendez, j'ai un lien comme avec quelqu'un. Sur Ulule, par exemple. Ok. Comment gérer la TVA sur les factures que j'émets aux contributeurs ? Ok. Donc pour une entreprise commerciale, puisque là c'est pas une assos, les taux appliqués sont ceux du secteur d'activité de votre projet, 20% le plus souvent. Ok. Donc effectivement, il y a 20% de TVA sur. C'est pas des dons en fait, puisque c'est fait par une boîte privée, et donc en fait c'est des factures qui sont émises aux contributeurs, donc il y a 20%. Ok. À chaque contribution. Waouh. Ah ouais, ouais, sans doute parce que ouais, c'est pour éviter que certaines boîtes se servent de ça pour. Oh là là, ouais, pff, oh là là. C'est beaucoup quand même, non? Vous en pensez quoi? Je sais pas. Ça me paraît. Déjà, à l'époque de la collecte des amis de Villebrequin, on s'était posé la question. Vous ne savez pas que c'est beaucoup? Je sais pas. Donc c'est ça, hein. Ouais, beaucoup de ouf, ouais. Moi, ouais, je trouve un peu, ouais. Merci Spatunette pour le soutien, pour le Prime. C'est pour éviter le blanchiment, me dit Rombrom. Mais ça, j'imagine bien que ça part d'une bonne intention, mais c'est beaucoup, non? Ok. Ce que j'aimerais déterminer, c'est si ces 20% de TVA s'appliquent uniquement aux goodies, hein, ce qu'on appelle les contreparties ou autres, puisque c'est quand même une info que semblent me donner certains, ou sur l'ensemble des contributions. Je vous lis. Moi, j'aime bien comprendre les trucs, et puis j'aime bien que ce soit carré aussi et clair. Alors là, on n'est pas sur du parrainage, Rembrandt SAV. En fait, la contribution est constatée comme une vente, me dit Ang. Ok, assez étonnant quand même. Ok. Alors, il y a une petite com pour Kiss Kiss, hein, elle est là, 5%, ça, il n'y a pas de souci, d'accord, ok. Ok. D'accord. Donc, a priori, ben, l'État prend 20%. Bon, ben, c'est bien ça. Voilà. Pardon, mais moi, j'aime bien vérifier les choses. Donc, ben, on peut continuer cette vidéo. C'est parti. Merci en tout cas pour vos éclaircissements et votre réflexion avec moi.
De Kiss-Kiss. Donc au final, si on a la moitié déjà, c'est pas mal. Mais avec ça, au moins, ça nous permet de débuter le projet à Bussy. On sait qu'on peut préserver la collection, elle est sécurisée, donc l'objectif est rempli à 100%. Et on a un lieu immense qu'on peut exploiter du mieux possible pour créer des événements de façon régulière déjà, pas juste une fois. Et c'est un lieu qu'on peut faire évoluer au fil du temps. Et en tout cas, on aura montré que beaucoup de gens sont motivés. Et on aura la chance de pouvoir bâtir ce projet sur le long terme, tous ensemble. Quatrième palier, le palier 1 million d'euros, c'est le palier ultime, c'est ce qui nous permet de faire tout ce que je vous ai annoncé, les décors, le village japonais, etc. C'est énormément d'argent, on le sait, mais encore une fois, c'est à la hauteur de l'ambition. Et chaque euro qu'on ira chercher au-delà, ce sera pour améliorer les décors, améliorer les concepts et faire un truc encore mieux parce que... pour être honnête, il n'y a pas de limite. On peut aller beaucoup plus haut que ce palier
Ils vont le faire, le million, hein.
pour faire des trucs beaucoup plus dingues. Et aussi, il y a un truc important, c'est que si on arrive à 1 million, pour moi, c'est le palier qui fait qu'on ne peut pas ignorer le fait que les gens veulent qu'il y ait un musée du jeu vidéo en France. C'est vraiment un signal très fort qu'on envoie à tout le monde et je pense qu'il devrait rassembler pas mal de gens.
Il va y avoir des subventions, j'espère. Hein, je pense, il y a des subventions ou pas qui sont prévues de l'État, de la région, de la ville?
En dehors de la communauté. D'ailleurs, parlez-en autour de vous, hein. C'est important que vous participiez ou pas, si ça vous intéresse de près ou de loin, parce que il faut que ce projet il sorte de la communauté ici Japon. Ça doit toucher tout le monde, parce que ça touche tout le monde. Voilà, encore une fois, je sais que c'est très ambitieux. De mon côté, honnêtement, je suis déjà content de ce qu'on a fait. Je suis assez fier. On a réussi à aller le plus loin possible en préparant le meilleur plan d'action qu'on pouvait. On n'est pas arrivé juste avec, allez, on a un financement, on ne sait pas ce qu'on en fait. On a vraiment bien bouclé le truc. On a réussi à réunir aussi les meilleures personnes. J'en ai pas parlé, mais il y a vraiment des acteurs dans le milieu du jeu vidéo, etc., qui nous aident, qui portent le projet, qui participent beaucoup. Donc ça, c'est énormément apprécié. J'ai énormément appris et j'apprends encore tous les jours. J'ai parlé à plein de gens super. Donc rien que ça, je prends. Et après, évidemment, plus on peut aller loin avec ce projet, plus je suis content, hein, c'est évident. Dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment de ne décevoir personne et aussi de vous impliquer au maximum dans cette aventure. Et avant de passer à la partie très importante, que sont les contreparties, je vous annonce déjà qu'à partir d'aujourd'hui, on va suivre quotidiennement ou presque l'avancée du crowdfunding sur la chaîne Ici Japon Corp. Et c'est là-bas qu'on vous donnera tous les détails, parce que là, je parle beaucoup, mais j'érafle à peine la surface, tellement il y a de choses à dire. Et c'est aussi là-bas, sur Ici Japon Corp, qu'on vous dévoilera les cadeaux qu'on vous donne, parce que cette campagne, c'est aussi l'occasion de vous faire plaisir. Et on a une bonne cinquantaine de lots à distribuer à ceux qui participent. Et la plupart font vraiment rêver. On aura un grand tirage au sort à la fin du crowdfunding. Vous allez découvrir que plein de créateurs, encore une fois, plein de créateurs de contenu nous soutiennent en donnant des cadeaux personnalisés. Il y aura des morceaux de leur décor, des trucs comme ça. Il y a des marques qui font partie du projet aussi, qui vont vous donner des trucs très sympas. Il y a plein de monde qui participe. Et de notre côté aussi, on a fait faire des lots spéciaux pour l'occasion. Et je vous présente, si vous voulez, déjà les deux premiers qui sont... C'est un truc de fou, préparez-vous psychologiquement. Donc déjà, si vous participez au crowdfunding, vous êtes automatiquement inscrit pour ce tirage au sort. Et l'un des lots à gagner, ce sera une réplique grandeur nature de la Master's World. Elle est vraiment impressionnante. On a commandité ça à un abonné, encore, qui nous a préparé plusieurs dingueries qu'on vous dévoilera petit à petit. Mais franchement, c'est un truc que j'aimerais avoir dans mon décor. Et aussi, on a, si vous connaissez peut-être que votre mâchoire va se décrocher, une PS5 customisée qui sera
customisée
aux couleurs du Japon
par
Vadu Anka. C'est la personne qui fait les customs officiels de consoles et de manettes pour les grands éditeurs. Enfin, à chaque fois que vous voyez passer une console extrêmement stylée, qui est juste en 3 exemplaires, customisée de tel ou tel jeu, c'est elle. Voilà. Et ces consoles-là, il n'y en aura que 2. C'est des consoles qui sont faites à la main et tout. Je ne vous raconte pas à quel point c'est une dinguerie. Hein. J'espère que vous appréciez ce genre de truc parce que moi, je trouve ça fou. Il n'y en aura que 2. Il y en a une qu'on va vous offrir, qui est prête en ce moment même. Et une autre, on va faire la même, qu'on va exposer fièrement dans le musée en souvenir de ce financement participatif, de l'aventure qu'on vit ensemble. Et ce sera notre première pièce.
Les modos vous ont mis le lien de la collecte que je vais peut-être moi-même retweeter dans la journée. Mais après, évidemment, c'est une collecte, c'est un appel aux dons. Donc, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Donc, je vais quand même... continuer à me documenter sur cette initiative que je trouve formidable, mais quand vous appelez, quand vous relayez un appel au don, quelque part vous soutenez cet appel au don, et donc il faut sûr que ce soit carré. Bon, a priori, ceux qui connaissent ce créateur de contenu, cet entrepreneur, semblent me dire que c'est une personne fiable, hein, carré, qui est connu, qui a déjà fait des projets. Voilà, Playmob, il me dit que ici Japon c'est carré, il est fiable, il est au top, me dit Kikil, c'est carré, me dit Maxou, c'est le gars sûr. Ok, c'est carré, très carré, ultra carré, solide, il n'y a pas plus fiable, très carré, plus fiable, tu meurs, ok, d'accord, ok.
Original du musée. Donc c'est une vraie dinguerie, on ne peut pas vous faire plus exclusif que ça en termes de cadeaux, et ça donne un peu le ton de tout ce qu'on va vous faire gagner pendant ce financement participatif. Les contreparties sont elles aussi assez dingues, et on a des paliers qui vont de 5 euros à 5 000 euros. Parce qu'on veut vraiment que tout le monde puisse participer selon ses moyens, même les plus riches. Très important. Je vous laisse découvrir les paliers sur KissKiss.
Petit message personnel, houblon nippon, je ne t'oublie pas. Voilà, rentrer un peu trop chargé et je m'en excuse.
Mais je vous parle quand même de 2 ou 3 trucs parce qu'il faut le préciser. Les goodies qu'on va vous proposer, c'est que de l'exclusif. Vous ne trouverez pas ça après la campagne. On a des pins, des stickers. Surtout, on a un t-shirt qui est fait spécialement pour l'occasion. Le t-shirt, c'est du tout imparfait. Hein. Si vous êtes client, vous connaissez la qualité. Vous savez qu'on ne se fout pas de votre gueule. On est très à cheval là-dessus. Et en règle générale, tout ce qu'on va vous donner, c'est hyper quali. Et on est aussi particulièrement fiers de dévoiler lors de ce financement participatif la grande encyclopédie des consoles de...
J'adore son t-shirt, moi. Je sais pas si on peut la voir en contribution, mais je l'adore.
Le jeu vidéo, ça s'est rendu possible grâce à Florent Gorge, qui est une top référence dans le milieu du jeu vidéo. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Et c'est fou qu'il participe à ce projet. Vraiment, merci à lui. Ça sera, en toute simplicité, le livre le plus complet au monde sur les consoles de jeux vidéo, avec plus de 400 consoles qui sont présentées sur 300 pages. C'est pas juste une liste, hein, c'est vraiment une présentation de toutes les consoles avec des infos, des anecdotes, etc. Donc une dinguerie intersidérale. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que ça vaudrait un financement participatif à lui tout seul. Et je vous en parle que maintenant, c'est vous dire à quel point on va faire quelque chose de grand. Dans ce livre, vous découvrirez du coup une grande partie des consoles qui seront exposées dans le musée, avec des photos qui pour la plupart seront tirées de la collection de Ludovic. Et on aura dans cette édition spéciale une couverture en dur Projet Odyssée avec un chapitre qui est consacré au développement du musée et à ce financement participatif, à l'aventure qu'on est en train de vivre en ce moment même. Donc on est déjà en train de bosser dessus.
Encore 2 minutes.
Il sera expédié en 2024. C'est extrêmement rapide, j'espère que vous en rendez compte vu la taille du projet, mais on ne va pas vous faire attendre des années pour vous envoyer les contreparties. Après, les autres paliers développent surtout des expériences sympas et assez exclusives, des accès VIP, la possibilité de visiter le chantier pendant la construction par exemple, ou d'assister à une pré-ouverture. Mais tous les participants, et ça c'est très important, reçoivent au moins une entrée du coup moins chère que ce qu'on va la payer quand le musée sera ouvert, et aussi des news exclusives pendant toute l'avancée du projet, ainsi que, et ça me tient beaucoup à cœur, un certificat numérique disant que vous avez participé à créer le musée du jeu vidéo. C'est pas tous les jours que vous pouvez vraiment activement participer à construire un musée cool qui plus est, qui parle à tout le monde. Donc, profitez.
J'adore parce qu'il y a Diazel qui se moque de moi, ça a changé. Hein. Ici, Papy Sam, il fait comme les vieux profs, il balance une vidéo d'1 heure pendant le cours et on regarde son tel. Non, je regardais le site en fait, Tous Imparfaits, qui est le site où on peut trouver les t-shirts du jeune homme là.
Profitez-en pour laisser votre trace dans l'histoire. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. On se donne rendez-vous sur la page KissKiss et aussi sur Ici Japon Corp pour suivre tout ça en détail. En tout cas, nous, on va continuer à se donner à fond pour rendre, j'espère, tout le monde fier. Et maintenant, tout est entre vos mains. Je vous fais des bisous. Bye.
Oui, j'ai dit jeune homme, on me dit qu'il a 45 ans, mais moi, toute personne qui est plus jeune que moi est un jeune homme, quoi, par définition. C'est merci, mais en fait, alors merci à tous ceux, et notamment à une vieweuse qui a attiré mon attention là-dessus. J'ai eu un très gentil message hier soir dans le chat, et oh tiens, j'ai un message de le bouseux en DM, ça me fait plaisir, ça. Ça fait plaisir de voir les amis. À propos d'un truc qu'on va faire bientôt. Marie Golotte qui était avec nous dans le chat hier soir. Voilà. Qui, voilà. Ah non, c'était sur autre chose, Marie Golotte. C'était pas pour ça, c'était pour une histoire de café. C'est intéressant aussi. Voilà. En tout cas, hier dans le chat et en DM, on m'a beaucoup parlé de cette initiative. Vous, on avait reparlé ce matin. Je me suis dit, c'est fou. Tout le monde est en train de m'en parler. Il faut aller voir quoi. Je reviens sur les subs, puisque j'en ai loupé plein, je pense, pendant la vidéo. Je remercie Jean Duterte à l'instant pour les 10 mois d'abonnement. Laurie Marin, je t'ai vu. Merci pour les bits. Ouais, Foufure, merci pour le 3e mois d'abonnement. Spatunel, je t'ai remercié tout à l'heure. Gros le mage, je ne t'ai pas remercié, merci pour le 19e mois. L'aviateur fou, je t'ai pas remercié, merci pour le 14e mois. Chemical What the Fuck, je te remercie à nouveau. Romrom SAV, Hollywood, Alixiage, Julio Franchute, vous avez carrément raté, merci pour le 24e mois, le 15e mois, le 19e mois, le 16e mois. Y67, merci pour le 14e mois d'abonnement et le gentil message. Ashgar86, merci pour le 4e mois. Silis Liu, merci pour le 9e mois d'abonnement. Olive Big, merci pour le 16e mois. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard, merci beaucoup. Comment ça il est? Ouais. C'est génial cette histoire. Voilà. On a des nouvelles d'Antoine Dupont. J'ai vu vos messages, puisque ici on émet des infos, on en reçoit beaucoup aussi, et on a des nouvelles d'Antoine Dupont, donc le capitaine de l'équipe de France de rugby, blessé hier lors du match contre la Namibie. Ce sont pas des bonnes nouvelles. On va en parler ce matin. J'ai vu vos infos. Waouh. Ok. Sur Twitter/X, on avait voilà ici le tweet. Ici, Japon Corp. Bon, je vais retweeter dans la journée, moi. Je vais retweeter ça. Hein. Je vais retweeter. Faire un joli texte. Je ferai ça tout à l'heure. J'ai deux tweets importants donc à faire. Ah, il y a eu des petits reportages et tout. C'est vachement. Elle est passionnante cette histoire. Deux tweets importants à faire aujourd'hui. Donc, je veux celui-ci. Après ce stream, et puis, l'annonce du partenariat de l'Hebdo Étienne que vous retrouvez ce soir à partir de 20h, partenariat avec l'Institut National de l'Audiovisuel, puisque à partir de ce soir, une fois par mois, avec l'INA, donc la mémoire audiovisuelle de la France, hein, on est un des rares pays au monde à avoir cette incroyable mémoire de notre production audiovisuelle, l'INA, une fois par mois, pour commencer tranquillement, un journaliste, ici c'est une Géraldine Cornelavo que je connais bien, qui viendra avec nous pour participer au débat, pour donner son regard, son avis sur l'actualité, et viendra avec des archives provenant de l'INA, donc on a tous les droits, etc., pour éclairer nos débats sur l'actualité. Voilà. Donc ce soir, vous avez l'ami Rémi Buisine de Brut, qui est déjà venu, que je suis très heureux de retrouver, Paul Larouturou, excellent journaliste de TF1. Et qui est full nouveaux écrans numériques en cette rentrée. Donc, ça fait très longtemps que je voulais qu'il vienne à la maison et justement, il va nous parler de tous ses projets. Julia Molcou, journaliste, chroniqueuse, passionnée de culture. Et donc, Géraldine Cornelavo, l'INA. C'est 20h ce soir et donc partenariat avec l'INA que je vais annoncer sur les réseaux tout à l'heure. Je suis assez fier. On est en mode qualité quand même. Hein. On est en mode qualité. Voilà. C'est pas mal. Petit partenariat INA, quoi. Voilà, quoi. C'est joli, non? Voilà. Merci Lecon71 pour le 21e mois d'abonnement, merci. La patate, c'est le café. Hein. Merci. Bon, on a fait une petite intro, du coup, un peu plus longue que d'habitude. Normalement, limitée à 30 minutes, ici, de presque une heure. Laurie Marin est de retour, je pensais que tu étais parti, merci pour les bits. Et on va donc, du coup, faire un petit sommaire. On fait ça? Un petit manque de temps, Pandachat, pour les petites revues de presse express. Là. J'ai pas mal bossé sur finalement du développement hein, de la chaîne ces derniers jours et des projets. Et donc, multitude de rendez-vous avant, après le stream. Quelques déplacements aussi. Du coup, j'ai pas fait la revue de presse express. Et donc, je me concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. C'est la presse, c'est la matinée Étienne le matin. Comment je vous flatte ? Non, mais en vrai, c'est vrai, c'est quand même le truc principal, quoi. Donc, les petites revues de presse express, Insta, Twitter et TikTok, je les ai un tout petit peu suspendus cette semaine parce que la semaine était dingue. Hop, c'est parti pour le sommaire. C'est parti pour le sommaire. Hop, voilà. Normalement, on est bon. Voilà. Vous êtes prêts ? Tu fais de nous ton essentiel. C'est ça, Kinema Live. Vous êtes l'essentiel. Est-ce qu'on va parler du pape aujourd'hui, me demande Soda Prise. En fait, c'est la principale actu qu'on va évoquer parce que c'est la une de quasiment tous vos journaux ce matin. Boum ! Le Monde, le pape à Marseille sur fond de crise des migrants. Regardez, le Parisien, Marseille accueille le pape des migrants. La une de Libération, devinez, le pape à Marseille. Je vous salue, migrants. Très joli titre. Comme toujours avec Libération d'ailleurs. Le Figaro, devinez quoi ? La visite très politique du pape François à Marseille. La Croix, bon, La Croix, journal chrétien, catholique, ce sont les valeurs du journal, même si ils ont une, comment dire, ces valeurs infusent, transparaissent dans le journal, mais c'est un journal qui parle de tout, et en sachant mettre leurs convictions de côté aussi. C'est un journal que j'aime beaucoup. Donc la une, pas une grande surprise, François, une passion méditerranéenne. Voilà. Donc toutes les unes des quotidiens ce matin quasiment consacrées à ce sujet. Donc on va lire différents articles pour comprendre un petit peu pourquoi on en parle autant, quelle est l'importance de ce déplacement à Marseille et pas en France. Vous allez me dire quoi ? Oui. Le pape a dit clairement qu'il venait à Marseille et pas en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on parlera de ces rencontres méditerranéennes. On va beaucoup parler des questions de migration, puisque le pape a des idées très, très précises, claires, fermes là-dessus, qui ne sont pas les positions de l'État français, du gouvernement. Et puis, on parlera d'autre chose. Donc, je vous montre le petit sommaire. Donc, Le Monde, donc, sur le pape à Marseille, vous avez bien compris. Okay. Le Parisien, je vous ai montré. Libération aussi. Et le Figaro et la Croix. Après, je vous parlerai des sénatoriales, parce que c'est des élections importantes, pour lesquels vous n'allez pas voter, hein, ce sont des élections indirectes, les sénatoriales, c'est dimanche, donc vous n'êtes pas appelé aux urnes, il n'y a pas eu de campagne à proprement parler, hein, les médias en ont très très peu parlé, mais il s'agit quand même de renouveler la moitié, si je ne dis pas de bêtises, des sénateurs, voilà. Une chambre, la chambre haute du Parlement, qui a un rôle important dans le travail législatif, donc on va en parler, je vais vous expliquer comment se fonctionne notamment le mode de scrutin, grâce à un article dans La Croix, grâce à un article dans Libération. Et puis, eh bien, l'info est tombée, hein. hélas. Non, c'est 50%. Je crois que c'est la moitié, on vérifie. C'est combien ? Quelqu'un me dit, non, c'est renouvellement d'un tiers. Non, info chat. En général, vous êtes bon. Là, non, ça, c'était pas bon. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Donc, c'est bien la moitié. Et puis, hélas, et la nouvelle est tombée manifestement, vous m'avez cité France Info sur cette info, Aurélien Dupont, Aurélien, je ne dis pas de bêtises. Putain, le matin, parfois, j'ai des petits doutes. Oh là là, je savais que c'était faux. Oh, Samuel, excusez-moi, la langue a fourché. Antoine, bien sûr, Dupont. Au moment où je dis Aurélien, je dis, qu'est-ce que tu racontes ? Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby. Joli match hier par le score face à Namibie. En même temps, il n'y avait aucun suspense. En revanche, très mauvaise nouvelle. Antoine Dupont, il est quoi ? Ne me dites pas qu'il est forfait pour tout le mondial. Fracture, hein. Ne me dites pas qu'il est forfait. Vous voyez, citer France Info. 47 minutes, Le Monde. Ok, je cherche une bonne source. France Info, ça me va. Ok, 31 minutes, c'est parti. Donc, fracture à la mâchoire, c'est effectivement ce qui était redouté. Donc, c'est bien une fracture. Il reste toutefois dans le groupe. Ok, est-ce qu'il peut revenir pour les quarts ? Est-ce qu'il peut revenir pour les demi ? Ok. donc fracture maxillo-zygomatique, hein, quoi, c'est par là, c'est ça. Un avis chirurgical spécialisé était demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité, précise la Fédération française de rugby, citée par France Info. En attendant cet avis supplémentaire, il reste dans le groupe des Bleus. L'inquiétude sur un éventuel retour à la compétition grandit, donc autour d'Antoine Dupont. Donc, on ne sait pas, en fait. On sait pas. Il est dans le groupe. Est-ce qu'il va revenir pour les quarts? Les quarts, ce n'est pas tout de suite. Hein. Parce qu'on ne joue pas l'Italie tout de suite. Hein. Est-ce qu'il peut revenir pour les demi? Est-ce qu'il peut revenir pour la finale? Ok. L'écart, c'est mort, disent certains. Ok. Bon, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration officielle. Ok. Vous avez les principales infos qu'on va évoquer aujourd'hui. Il n'y a pas moult infos, vous le voyez. Le pape, les sénatoriales et la Coupe du Monde de rugby. On a trois grosses infos. En vrai, ce matin, je me suis dit, waouh, il n'y a pas mille trucs nouveaux, quoi. Mais en même temps, c'était des infos qui me semblaient importantes. Donc je me suis dit, ça, maintenant, tu bouges tes fesses, tu vas au studio, tu te prends un petit café, tu fais ta revue de presse. MP Gautron, merci pour Google pour le deuxième mois d'abonnement. Et maintenant, on est prêt. Maintenant, on est prêt pour la revue de presse. On y va. Le cours 71, encore merci. Vous êtes prêts? On y va? On commence par le pape, ça vous va? Est-ce que j'ai un go? Est-ce que j'ai un yes?
Yes!
Ok, a priori oui. Pour vous, c'est bon, ok? On y va? Ready? Go? Yes? Go? Ok, bah, c'est parti. C'est super. Ouais, il y a MMGCTF qui essaye de dégonfler la polémique que je vais lancer tout à l'heure, parce que je suis pas un garçon qui cherche la polémique. Mais MMG qui était là hier soir, il sait ce que je veux dire tout à l'heure sur Antoine Dupont. Hein. MMG qui dit « Ah, pour info, si Antoine Dupont a joué hier, c'était pour le laisser en forme et ne pas avoir à se préparer de manière intensive. » Désolé. Mettre les meilleurs cadres, les meilleurs joueurs, l'équipe A du 15 de France contre la plus faible, l'une des plus faibles équipes de ce mondial, la Namibie, où il y avait zéro suspense sur la victoire et sur le score fleuve. Voilà. Mettre les meilleurs et prendre le risque de blessure, c'est un match de rugby, quoi. Sur des gars hyper préparés, de toute façon. Pardon, avant le match, avant la blessure, quand j'ai vu la composition de l'équipe, je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée, ça, de mettre les meilleurs contre la Namibie. Je sais que le match d'avant, avec justement l'équipe B, on n'a pas été très impressionnant. Mais c'est vraiment l'idée du siècle, ça? C'est vraiment l'idée du siècle, ça? Il n'y a pas un risque de blessure, quand même? Pardon. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les polémiques, qui les cherche et qui les met en avant, mais je me suis posé la question, quand même. Ouais, bah, Galtier, il a répondu que les mecs ont besoin de jouer, me dit Sean Paul Sartre. Ok, alors pourquoi ils n'ont pas joué contre l'Uruguay? Alors, pardon, hein. C'est pas polémiquer pour polémiquer, hein. Ah bah oui, il fallait le bonus offensif, on l'assurait, oui, 80, c'est quoi, 96-0, c'est ça? Oui, 96-0, on l'a, le bonus offensif. Vous savez quoi? On va inviter Mathieu Lartaud à la maison, et il va nous dire. Ouais. Merci Doudou Ball. On demandera à Mathieu. On demandera à Mathieu Lartaud. Je vais l'inviter. Je vais essayer de le faire venir pendant cette Coupe du Monde. Ouais. Merci Doudou Ball pour le gentil message. Et la peine, que dis-tu, Doudou? Effondré pour Antoine Dupont, obligé de faire jouer Samuel Etienne à la place maintenant. Moi, je fais le ballon au rugby. Hein. Quand je joue au rugby, je fais le ballon. Le staff n'a plus le choix, doit faire revenir le titan sacré du ballon ovale sur le terrain, Sam numéro 9. Ok, moi je fais ballon, moi. Vous êtes très en colère, hein, quand j'essaie de créer la polémique, là. Il y a Cyril qui dit « On va l'étouffer dans l'œuf, la polémique de M. Samuel Etienne. » Je sais pas. J'y connais rien, hein. Ma culture du sport n'est pas terrible. Mais en vrai, je sais pas. Je me pose la question, quand même. Allez, c'est parti. C'est pas tunette, faut faire revenir Chaval, mais c'est la retraite, Chaval. Ouais. Allez, c'est parti, on y va? Allez, go. Allez, on commence par le pape à Marseille, avec des articles de qualité, pour nous dire pourquoi c'est si important, pourquoi on nous parle autant de ce déplacement du pape à Marseille. Le pape à Marseille, sur fond de crise des migrants, Le souverain pontife se rend donc dans la cité phocéenne aujourd'hui, vendredi, et puis demain, samedi. Demain, il y a la fameuse messe à laquelle va assister le président Macron, avec en point d'ordre donc une messe au Vélodrome quand même, en présence du chef de l'État, François, le pape François, qui estime être, c'est lui qui le dit, hein, en visite à Marseille et non en France. Le pape François estime être en visite à Marseille et non en France. Vous allez me dire, quoi ? Vous allez comprendre. Veut mettre en avant la question de la Méditerranée et des migrants. Alors que l'afflux de personnes à Lampedusa, on en a parlé ici, tend les relations européennes, le message d'ouverture du Vatican sur la question des migrants est en décalage avec la position française. Alors, à Marseille, François vient en Méditerranée, pas en France. On va s'expliquer là-dessus. Alors, c'est pas que le pape François connaît sa géographie, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Lisons, la cité phocéenne donc sera donc aujourd'hui et demain le théâtre du deuxième déplacement du pape François dans l'Hexagone. En 2014, il s'était rendu à Strasbourg. Conçu cette rencontre comme une rencontre avec les 28 pays membres de l'époque de l'Union européenne, déjà comme un premier rendez-vous de biais avec la France. Donc son premier déplacement en tant que pape en France, c'était à Strasbourg, et c'était déjà plutôt un déplacement visant l'Union européenne que la France et les Français. Quito 4, merci pour le bon matin et pour le soutien. La logique cette fois demeure la même, c'est un rendez-vous de biais. J'irai à Marseille, mais pas en France. Il a dit cette phrase. J'irai à Marseille, mais pas en France, a déclaré ouvertement le pape François, dans l'avion qui le ramenait des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, avant d'ajouter tout de même qu'il n'avait rien contre la France, contre le pays de Molière. Le chef de l'Église catholique ne s'en est jamais caché. L'Europe, berceau de la papauté, centre de gravité de l'institution depuis des centaines d'années, n'est pas sa priorité. Pape des fractures, pape des marges, il a fait des confins du monde, de l'Asie, de l'Afrique, des petits pays pauvres, des pays en guerre, théâtre d'une tragédie humaine, ses préoccupations majeures. En répondant, et vous allez comprendre, parce que certains sont un peu surpris de cette distinction, la France et Marseille, en répondant à l'invitation d'une commune, c'est une invitation de Marseille, ouverte sur la mer multiculturelle, François vient surtout participer aux rencontres méditerranéennes et parler des migrants, sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Ce thème a jalonné ses 10 ans de pontificat, d'ailleurs c'est pas nouveau, lors de voyages importants comme en Grèce, comme sur l'île italienne de Lampedusa également, où de nombreux migrants sont arrivés récemment. Ok, vous comprenez maintenant ? Non, étalon du cul, on ne parle pas de pape San, mais du pape François. Et ça n'est pas une visite d'État, effectivement. Tout le monde a compris ? C'est ok ? Si je lance une interrogation, là, tout le monde est ok ? Tout le monde a compris la distinction France-Marseille dans l'esprit du pape, là ? C'est une visite du pape François à Marseille pour surtout parler de la question migratoire. Okay. Okay. 20 sur 20 pour Angélique, Valentin, Moumelon pas. Okay. Okay. Merci Martinou pour le soutien, pour le 7e mois. En tout cas, c'est ce que dit le pape. En tout cas, c'est ce que dit le pape. Parlons des migrants maintenant, parce que c'est un combat important du souverain pontife. Qui est responsable du sang de ses frères et de ses sœurs ? Personne. Nous répondons tous ainsi. Ça n'est pas moi, c'est sans doute quelqu'un d'autre. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle, avait-il regretté à l'époque de sa visite sur l'île de Lampedusa, évoquant les bateaux qui auraient, au lieu d'être un chemin d'espérance, ont été un chemin de mort. On parle des bateaux chargés de migrants qui font naufrage, bien sûr, en Méditerranée. Des mots qui résonnent aujourd'hui avec une acuité particulière, alors que l'île, devenue depuis un an la principale porte d'entrée des migrants cherchant à rejoindre l'Europe, traverse une crise majeure. Depuis janvier, près de 130 000 personnes sont arrivées par la mer en Italie, deux fois plus qu'à la même époque, en 2022. Entre-temps, il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir en Italie entre droite et extrême droite qui avaient un programme où ils avaient dit vous allez voir ce que vous allez voir et on va régler ce problème et on voit finalement que les questions de migration de frontières sont infiniment plus complexes que certains partis veulent le dire. Je dis ça, je dis rien. Les tragédies, elles, n'en finissent pas, qu'elles soient au large de Lampedusa en août ou dans la mer Ionienne en juin, quand 79 cadavres ont été repêchés, elles continuent de faire de la Mare Nostrum, notre mer en latin, comme l'a rappelé François, le pape François, un cimetière. Alors Macron et François, puisqu'on dit François comme on dit Jean-Paul II, voilà, le pape François, deux visions de l'immigration, et petit éclairage, du monde. Quelqu'un me dit le Z en sueur, et d'ailleurs parmi les voix qui se sont élevées pour critiquer les positions du pape sur les questions de migration, il y a effectivement, on en parlera tout à l'heure, la voix d'Éric Zemmour. Donc le pape François et Macron, deux visions de l'immigration, lesquelles? La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. Qui a dit ça? C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. C'était mercredi, sur TF1, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, adresse un message de fermeté, un message qui cogne avec celui du pape François, qui, lui, va consacrer à Marseille une prière aux migrants disparus en mer. Sur cette question, le président Macron pourtant a varié au fil des années. En 2017, en janvier, il était à l'époque candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron avait pourtant écrit Le Monde, regretté que lorsque l'Italie affronte seule l'arrivée des réfugiés à Lampedusa, ni la France ni l'Allemagne n'avaient été au rendez-vous. Il estimait que l'Allemagne avait par la suite sauvé notre dignité collective européenne en accueillant des réfugiés en détresse. Ça, c'est ce que disait le candidat Macron. À l'épreuve du pouvoir, une fois élu, sa vision libérale s'est raidie, écrit Le Monde, merdique dick, merci beaucoup pour le 15e mois d'abonnement. Sa politique aujourd'hui est censée, si on essaie de la comprendre, naviguer entre fermeté, déclaration de Darmanin sur Lampedusa, et humanité, avec d'une part une reprise du contrôle des flux, et d'autre part des efforts sur l'intégration et la préservation de l'asile. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le « en même temps », on est... C'est le « en même temps » macroniste, on est en même temps sur la fermeté, en même temps sur l'humanité. Cet attachement, cet engagement, s'est traduit par l'engagement de la France à accueillir des réfugiés réinstallés depuis des pays tiers, hein, bien que les objectifs soient passés de 10 000 entre 2017 à 2019 à 3 000 entre 2021 et 2023, mais il est contrebalancé par d'autres actes symboliques. En 2018, la France a refusé d'accueillir le bateau de sauvetage des migrants Aquarius. En 2019, Emmanuel Macron a choisi de confier au titre d'extrême droite Valeurs Actuelles sa vision de l'immigration, formulant le souhait intenable d'exécuter 100% des obligations de quitter le territoire. D'aucuns soulignent l'influence du chevènementiste Didier Léchy, qui est l'actuel directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui dit quoi? C'est intéressant parce que là on met des mots un petit peu sur la pensée macroniste des migrations, des questions de migration. Qui dit quoi ce monsieur Léchy? Si on prend en compte le ressentiment croissant des classes populaires sur qui repose l'accueil, des mesures de régulation de flux sont nécessaires pour ne pas accentuer les problèmes sociaux, la concurrence dans l'accès au logement et les difficultés d'intégration. Macron est un politique, il regarde les rapports de force dans la société française et d'une certaine manière il les suit, estime Pierre-Henri, qui est président de France Fraternité. Le silence des pouvoirs publics face aux attaques de l'extrême droite dans les zones rurales, vous vous rappelez de ce maire en Loire-Atlantique qui avait dû démissionner après que ses voitures et sa maison ont été incendiées. Le silence des pouvoirs publics face à ces attaques dans ces zones rurales où existent des projets d'accueil de demandeurs d'asile témoigne d'une ambivalence sur cette question. Je vous lis vos réactions et puis après on passe aux Parisiens sur le même sujet. Non, c'est bien. Il y a Nojo qui estime que les racistes cathos sont en sueur quand le pape parle d'accueil. On va en parler. C'est juste d'ailleurs ce que tu dis, mais on va en parler. Je vous lis. pardon, j'ai fait, peut-être fait la liaison. Je n'ai pas dit les racistes scato, hein, c'est les racistes cato. J'ai peut-être fait une petite liaison qui n'était pas voulue. Merci Sweet Storm, je ne mérite pas ce gentil compliment, mais je le prends quand même. Alors, lisons le Parisien. Vous allez voir, tous les journaux évoquent ce sujet ce matin. Marseille accueille le pape des migrants, c'est comme ça que le Parisien le surnomme. Libération, je vous salue migrant, ça n'est pas le je vous salue Marie, c'est le je vous salue migrant, qui est assez beau je trouve. Et un édito signé Alexandra Schwarzbrod, qui écrit de jolis, de bons éditos dans Libération, et qu'on va lire nous aussi. Humanité, c'est le titre de l'édito d'Alexandra, qui en nom de Libération écrit ceci. Pour nous, laïcs convaincus, défenseur d'un digne accueil des migrants, ce voyage du pape à Macron est une bénédiction. C'est amusant d'ailleurs d'utiliser ce mot, mais évidemment c'est fait exprès. Voilà enfin quelqu'un qui ose l'ouvrir et se mouiller pour une cause qui dépasse largement les petites mesquineries, les petits arrangements politico-politiques auxquels nous sommes habitués en France et en Italie. Une cause qui restera dans l'histoire comme une des grandes tragédies, une des grandes hontes de ce début de siècle. François, le pape François l'a dit, l'a redit, il ne vient pas en France, il vient à Marseille. Au plus près de quoi ? De cette Méditerranée dans laquelle on sombrait depuis 20 ans des dizaines de milliers d'enfants, de femmes, d'hommes, fuyant la guerre, fuyant la misère. C'est un geste ouvertement politique, alors que les dirigeants européens se déchirent sur le cas de ces milliers de migrants arrivés récemment à Lampedusa, et dont personne ne veut, à commencer par la France. Voilà pour l'extrait de l'édito d'Alexandra Schwarzbrod. Je vais à la fin de cet édito. Le pape, lors de son premier séjour sur l'île de Lampedusa, avait vigoureusement dénoncé la mondialisation de l'indifférence. C'était il y a 10 ans. Il a beau être pape, il n'est pas parvenu jusqu'ici à briser ce mur-là. Au moins, ne renonce-t-il pas ? C'est à porter à son crédit, estime Alexandra Schwarzbrod. Nevik, je ne suis pas le meilleur, c'est toi, et merci pour le 12e mois d'abonnement. Là, on a dans Libération aussi, je vais vous lire tout de suite, une analyse de la pensée du pape sur la question migratoire. Mais d'abord, je vous lis un petit peu. Alors évidemment, sur ce sujet, et c'est tout l'intérêt de cet espace de discussion, vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous n'êtes pas d'accord aussi avec moi quand j'exprime des opinions, et ça me va, tant que c'est correctement exprimé, avec respect, et c'est le cas ici. Vlad Tepes, on est d'accord, c'est bien beau de vouloir accueillir tout le monde, mais une fois qu'ils sont arrivés, on en fait quoi ? La France a déjà du mal à s'occuper convenablement de ses propres citoyens. Argost, on ne peut pas arrêter l'immigration. 30 lois plus dures les unes que les autres depuis 15 ans. Ça n'a jamais arrêté l'immigration. Ils ne fuient pas leur pays par plaisir, par nécessité. La meilleure chose à faire est de les accueillir dignement. Master ici, vous êtes nombreux à vous interroger hein, sur le sujet. C'est Master ici qui écrit, c'est sans fin. C'est sans fin, il y a toujours de plus en plus de migrants. On peut sûrement encore accueillir, mais jusqu'à quand, demandes-tu ? Merci Bigorno pour le gentil message. Alors, MMGCTF a raison sur ce que tu exprimes là, puisqu'on imagine, effectivement, certains imaginent l'intégralité des peuples africains rêvant en fait de migrer vers, vers chez nous, la France, l'Allemagne, que sais-je, la Grande-Bretagne. Et même GCTF écrit, et c'est vrai, quand on regarde les chiffres, contrairement à ce que certains pensent, dis-tu, la plupart des immigrés d'Afrique subsaharienne se tournent vers l'Afrique du Nord ou la péninsule arabique. Les mouvements de migration, ils ne se font pas uniquement de l'Afrique vers l'Europe ou de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Souvent, c'est au sein même du continent. La pensée du pape François sur la question migratoire, la voici. Pour François, les migrants sont les plus pauvres des pauvres, explique le jésuite Pierre de Charentenay. Dans la théologie de François, la défense des migrants, y compris climatique, est mue par ce qui est la boussole de son action, la défense des plus pauvres. Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres, déclare-t-il quelques jours seulement après avoir été élu pape. Cet impératif résonne avec son action lorsqu'il était archevêque déjà de Buenos Aires. Là-bas, il se rendait régulièrement dans les villas, les bidonvilles de la mégalopole sud-américaine ravagée par le trafic de drogue, point de chute de centaines de milliers de migrants boliviens et paraguayens installés en Argentine. Vous voyez que cette pensée de la migration, en fait, elle débute bien avant qu'il soit pape. « Nous nous plaignons, a dit le pape François, lorsque nous lisons les histoires des camps de concentration des nazis, des soviétiques du siècle dernier. Cela se produit aujourd'hui sur des rivages tout proches, clamait-il en décembre 2021. Le pape toujours, ne permettons pas que la Mare Nostrum, notre Méditerranée, se transforme en une désolante Mare Mortum, hein, mer de la mort, que ce lieu de rencontre ne soit pas, ne devienne pas le théâtre de conflits. Ne laissons pas cette mer de souvenirs devenir la mer de l'oubli. Frères et sœurs, je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation, dit le pape. Pour les responsables catholiques qui sont engagés auprès des migrants, il y a un devoir imprescriptible de sauver toute vie humaine. Comme le rappelle le cardinal López Romero, en se fondant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque être humain a le droit de vivre où il veut. Sur la rive sud de la Méditerranée, les évêques catholiques s'inquiètent de la volonté de l'Europe de déplacer la frontière en chargeant les pays comme la Tunisie de retenir les migrants. Plutôt que de mettre les millions d'euros dans des politiques sécuritaires, pourquoi l'Europe ne construit pas des politiques migratoires positives ? N'utilise pas cet argent pour intégrer au mieux les gens. Ces choix et ce militantisme ont valu à François l'opposition radicale des droites religieuse, américaine, européenne, promotrice d'un catholicisme identitaire, revendiquant notamment les racines chrétiennes de l'Europe pour s'opposer aux migrations. Face à elle, François, même fatigué, même fragilisé par des problèmes de santé importants, demeure inflexible. Voilà. Alors, à un moment, je citais donc le cardinal López Romero qui, en se fondant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, déclarait que chacun avait le droit dans le monde entier de vivre où il voulait. Et quelqu'un me disait, mais non, il y a les pays. Ah ben voilà, ce sont deux logiques qui s'affrontent. La logique des droits de l'homme, et puis la logique des nations, des pays, des frontières. Voilà. J'ai la chance, moi, toi, d'être né dans ce pays riche. Plus riche, en tout cas. Plus confortable que tel autre. Je n'ai rien fait pour cela. Je n'ai rien fait pour mériter cette chance. Je suis juste né au bon endroit, au bon moment. Mais c'est à moi. Mais c'est à moi. Et personne ne va me le prendre et personne ne va mettre ça en danger. Et toi qui n'as pas eu cette chance, je te dis bien en face que eh bien, tu dois rester là où tu es. C'est de logique. De logique. Alors après, ce sont les grands principes, ce sont les grandes idées, ce sont les valeurs de partage et d'amour qui sont prônées notamment par la religion, je dirais même les religions, et puis après, il y a la réalité du quotidien qui est parfois plus compliquée, c'est vrai. J'en ai conscience aussi. confiance. Je continue puisque chaque journal ce matin en parle et on parle même en sa une. La visite très politique du pape François à Marseille. Le Figaro est un journal qui n'avance pas masqué, qui ne cache pas être un journal plutôt de droite, plutôt conservateur dans ses éditos, quand il s'exprime sur l'actualité, sachant que tous les journalistes du Figaro ne sont pas forcément d'ailleurs des journalistes conservateurs et de droite, mais c'est un peu la tonalité générale. Voilà. Et par exemple, sur cette question de la migration, vous avez un regard qui n'est pas le regard de Libération. Hein. C'est pour ça que je vous le dis d'ailleurs. Édito, cette fois signé Étienne de Montetti, humanité et responsabilité. C'est parti. Le Haut-Karabakh, l'Artsar, Marlon, on en a parlé très longuement hier soir dans la revue de presse, tu l'as en replay. Je lis cet édito parce qu'il est de mon devoir de vous lire différents regards sur l'actualité et pas forcément les gens qui sont d'accord avec moi. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sinon, à la fin, vous finissez par devenir complètement con dans votre coin à ne parler qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous et de lire que les articles dont vous approuvez le contenu. Ça n'a aucun intérêt. Lisons le Figaro. Il est bien sûr du devoir d'un pape d'appeler à la plus grande charité en enjoignant au peuple de ne jamais s'habituer à ces tragédies que sont les naufrages et les noyades au large des côtes d'Europe. Mais, c'est le mais ici qui est important dans le Figaro. Maxence, merci beaucoup pour le 18e mois d'abonnement, c'est adorable. French Hugo, merci pour le 8e mois, merci beaucoup. Mais, il est du devoir des gouvernants d'œuvrer avec prudence et détermination face à des phénomènes spectaculaires qui saisissent d'émotion les sociétés occidentales, mais dont la complexité, merci pour le raid, j'arrive, oh merci. Je finis l'édito, on est en train de parler de la question de la migration vue par les yeux du pape, en tout cas merci pour le raid, dont la complexité ne peut se limiter à l'effroi et à la générosité. Chacun, les dirigeants comme le pape, doit prendre en compte la situation politique, économique et même climatique des pays où proviennent les cohortes des candidats, cohortes, le mot n'est pas très joli, bon. Cohorte des candidats à l'exil. Sans parler de la capacité des Européens à recevoir, à intégrer correctement les nouveaux venus. Une exigence d'humanité et une attitude responsable ne sont pas antagonistes, estime le Figaro, comme voudraient le laisser croire les cyniques, les naïfs. Ce sont deux volets de la politique que les peuples sont en droit d'attendre de leurs dirigeants. Vous voyez que le regard du Figaro n'est pas le regard de Libération, mais vous ne serez pas surpris. Sur la question de l'immigration. Je remercie maintenant le très beau raid à l'instant de I am Sean Red. Comment vas-tu déjà ? Merci, je vous montre la chaîne qui vient de nous rejoindre. Merci. On est dans la petite revue de presse du matin avec beaucoup, beaucoup d'articles sur la visite du pape à Marseille aujourd'hui et demain, avec un souverain pontife, donc François, qui malgré l'âge, la maladie, la fatigue, continue de porter très, très haut, notamment cette parole sur l'accueil des migrants, ce qui ne correspond pas forcément à la vision officielle, par exemple, exprimée en France. I am Sean Red, pour les passionnés de tech, nous dit ce petit résumé, tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 6h30, c'est ce qu'on appelle un lefto, notamment la tech dans le cul. Voilà, j'aime bien. Il faudra qu'on invite I am Sean Red dans l'hebdo Étienne. Je ne sais pas si tu voudrais venir. Est-ce que tu, au-delà de la tech, est-ce que tu suis un peu l'actu ? Est-ce que ça t'intéresse ? C'est une bonne idée ou pas ? Moi, je me fais un pense bête, je prends en photo mon écran, moi, c'est ça l'âge. Est-ce qu'il serait intéressé ? Salut. Qui m'appelle ? Je sais pas. 04, je sais pas qui c'est. Bonne idée ou pas ? Ouais, ok. Un dev qui se lève tôt, j'y crois pas, c'est une IA. C'est mignon. Et merci I am Sean Red. Je vois que tu es en forme et je vois que ta matinée a débordé. Je sais pas à quelle heure elle se termine d'habitude. Un ami d'Inforéa, ok. Ok, manifestement, l'invitation est acceptée. Ok, faut qu'on se parle. En tout cas, c'est validé à 100% cette idée. Ok, on va bosser là-dessus. La Croix consacre évidemment, ça n'est pas une surprise, également. Salut Défécateur, merci d'être avec nous. Sa une à cette visite de 2 jours du pape François en France. Donc on a appris tout à l'heure dans Le Parisien que c'était sa 2e visite seulement en France depuis le début de son pontificat, la première étant à Strasbourg. Le pape attendu donc sur la crise migratoire, je pense que vous l'avez compris, et la croix qui a écrit ces derniers jours, ses propos ont fait l'objet d'un tir de barrage. Qui s'est ému négativement de cette visite du pape François et du message qu'il va porter? Tir de barrage de plusieurs responsables politiques français d'extrême droite, écrit la croix, comme Éric Zemmour ou comme Marion Maréchal, qui ont estimé de concert que le pape argentin était trop investi sur le champ politique. Voilà pour ces quelques articles, après on va parler sénatorial. Sur la visite du pape François. Je vous lis sur la visite du pape François, sachant que c'est un thème qu'on va aborder évidemment ce soir dans l'Hebdo Étienne à partir de 20h. La visite du pape François. Paul, par exemple, Paul Larouturou, devait partir dès ce soir à Marseille pour couvrir ce voyage du pape pour TF1 et pour LCI. Et en fait, du coup, il part pas ce soir. Pour nous, pour vous. Et il part demain matin très très tôt et il va couvrir ce voyage, donc on va en parler avec lui notamment quoi. Je vous lis un petit peu sur ce voyage du pape. Le pape a toujours été une figure politique, me dit Mister Svenja. Oui, évidemment, évidemment. Je vous lis sur le pape. Alors Paul, moi ce qui m'intéresse avec certains me parlent de Paul Larouturou, ce qui m'intéresse avec Paul, qui est aujourd'hui journaliste donc à TF1, à la rédaction de TF1 et d'LCI, c'est qu'en fait il a été chargé par la direction de la rédaction de TF1 à la rentrée, de passer full time sur le numérique, sur les réseaux, sur les plateformes pour faire son travail d'information. Quoi. Avec de nouvelles écritures, de nouvelles façons d'informer. Il s'agit peut-être de toucher un nouveau public, un public peut-être plus jeune qui ne regarde pas les rendez-vous d'information classiques, que ce soit LCI ou les journaux, les JT 13h, 20h de TF1. Je lui poserai la question, puisque parmi les débats qu'on aura ce soir, je peux vous le dire d'ailleurs, les trois débats principaux de ce soir, donc d'actu avec nos invités, donc c'est, je vais vous dire, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, on a premier thème, Charles III, êtes-vous hypé? Hein, c'est-à-dire, en fait, la visite du souverain britannique en France, on s'en fout ou pas? J'ai 4 journalistes, je poserai la question. À mon avis, Lina va nous fournir une belle petite archive, peut-être du côté d'Elisabeth II. Deuxième thème, ça je le trouve important, l'histoire du collégien de 14 ans, harceleur, qui a été interpellé par la police en pleine classe. Voilà. Donc là, je voulais aussi l'avis de mes invités là-dessus. Troisième thème, les vieux médias vont-ils rattraper les jeunes? Il y a un article du Monde passionnant là-dessus, hein, sur les initiatives de France Info, la radio, de France Télévisions, avec des journaux à destination des 15-25 ans pour l'un, 12-18 ans pour l'autre. Il y a aussi le travail de Paul en direction a priori des plus jeunes. Rémi travaille pour Brut. Donc voilà, est-ce que les médias sont en train de se mettre en ordre de bataille pour enfin intéresser un public un peu plus jeune? Voilà. Si oui, comment le font-ils? Et s'ils le font, est-ce que ce sera avec succès? Pas mal. Et puis, chaque invité vient avec une carte blanche, un thème qu'il veut mettre en avant. Géraldine va nous parler de la question de l'inceste en France, avec notamment le documentaire co-réalisé par Emmanuel Béart qui arrive à la télévision bientôt, ce qui permet de faire un point sur le sujet. Et puis, Paul va nous parler de la visite du pape à Marseille. Voilà. Pas mal, hein? Pourquoi il n'y a pas de streamer dans cette programmation? Parce qu'en fait, c'est le hasard de la programmation. Par exemple, il doit y avoir Charlie Danger, la youtubeuse passionnée d'histoire. Et en fait, Charlie a eu un petit souci au dernier moment. Pas grave, donc elle reviendra dans une autre hebdo. Et du coup, au dernier moment, c'est-à-dire hier après-midi, j'ai dû trouver un invité de plus. Et c'est Rémi qui m'a répondu le premier. Voilà. C'est vrai que j'aime bien mélanger. Alors après, moi, j'aime bien mélanger, mais à long terme. C'est-à-dire que j'aime bien faire des émissions avec deux journalistes, deux créateurs de contenu, streamer, youtubeur. Mais ça m'arrive de faire des émissions full streamer. Bientôt, il y aura une ou deux émissions full streamer. Voilà. Et puis il y aura ce soir, c'est plutôt une émission full journaliste, même si les supports sont de la même manière que je vise la parité, mais je vise la parité sur la saison. Hein. J'ai commencé cette saison avec 4 invités, 4 femmes dans l'hebdo Étienne. Est-ce que j'ai fait une émission avec 4 mecs? Peut-être déjà, peut-être. Là, j'ai 2 et 2. L'idée étant de viser l'objectif qui est d'arriver à la parité sur la saison, sur 35 émissions. Voilà, c'est un truc que je m'impose, je trouve ça important. Je suis assez fier de pouvoir dire que je suis le talk sur Twitch qui reçoit le plus de femmes. Vous pouvez compter, c'est y a pas trop photo, quoi. C'est un truc qui est important pour moi. Allez, on passe au sénatorial. Comme ça, vous aurez tout sur les sénatoriales. Mais il vient pas sur Twitch, Bengamix. Bengamix dit, oh, je suis pas très chaud qu'une personne de la télé de TF1 vienne sur Twitch à plein temps. Il vient pas du tout sur Twitch, Paul. Il va bosser sur Insta, sur TikTok, tout ça. Pas du tout, pas du tout. David Castello-Lopez, un jour dans l'émission, me demande de Fraxi. Il est déjà venu, la saison dernière. Et je leak, il revient bientôt. Voilà. Merci Alexandra pour ton petit message sur le dessinateur. Je vous lis. Et on enchaîne. Charlie Danger, trop cool. Oh, moi, ça fait longtemps que je voulais faire venir Charlie, qui est hyper occupé. Et puis finalement, c'est pas pour cette fois, mais c'est pour très bientôt. Le Sénat, vous saviez qu'il y avait des sénatoriales là, dimanche, des élections sénatoriales? Non, vous le saviez pas. Et pour cause, vous ne votez pas. Ça n'est pas un scrutin direct où les Français votent directement. C'est un scrutin indirect. Ce sont des élus pour lesquels vous avez voté à un moment, notamment au niveau local, qui vont voter. Scrutin indirect. Donc je me mets en mode Jean Massier là. Sénat, un scrutin paisible, nous dit Lacroix, pour une assemblée à part, effectivement. Les grands équilibres du Sénat ne devraient pas trop être modifiés par ce renouvellement partiel du dimanche 24 septembre. Hein. C'est la moitié du Sénat qui est renouvelée. Mais des reclassements pourraient s'opérer au sein de la majorité, au centre ou à gauche. Le RN espère à nouveau obtenir des élus. L'article est bien fait et nous résume bien l'intérêt de ces élections sénatoriales. Alors, résumé par exutoire ainsi, les sénatoriales, c'est les vieux qui votent entre eux pour leurs potes. Alors, j'aimerais te dire que c'est faux. Il y a un peu de vrai. Non, tu dis un petit peu. Les présidents des deux plus grands groupes du Sénat, Bruno Retailleau, LR, et Patrick Kanner, PS, sont unanimes. Les élections sénatoriales de dimanche seront marquées par la stabilité. D'abord parce que le Sénat n'est renouvelé que par moitié. Ensuite, parce que le scrutin au suffrage universel indirect favorise les partis disposant d'un ancien et solide maillage territorial. Ce qui explique pourquoi les anciens partis dominants LR et PS, hein, qui sont très faibles à l'Assemblée, sont toujours très puissants au Sénat, au Palais du Luxembourg. Pourquoi ? Parce que qui vote ? Les élus locaux. Hein, les élus locaux. Et les élus locaux, eh ben, en fait, souvent, ils sont issus de partis qui sont installés depuis longtemps. Voilà. D'où la sous-représentation d'un parti comme le RN, qui a un maillage territorial très faible, il n'y a pas beaucoup d'élus locaux RN, d'où la sous-représentation, voire même l'absence totale de... Il y a des sénateurs LFI, il ne peut pas y en avoir beaucoup, pour les mêmes raisons, voilà. un maillage territorial qui est assez faible, et la surreprésentation de partis plus anciens comme la droite, LR, comme les socialistes. Au contraire, justement, dit Lacroix, des mouvements politiques faibles localement et forts nationalement, le Parti Renaissance, très peu de sénateurs, le Rassemblement National, très peu de sénateurs, et la France Insoumise. C'est l'un des charmes discrets du Sénat? Non, pas du tout. Il y a Angélique qui pose une bonne question. Est-ce que le président nomme une partie des sénateurs? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment les élus locaux qui votent pour les sénateurs. C'est vraiment une élection universelle, mais au suffrage indirect. C'est l'un des charmes discrets du Sénat. Son fonctionnement est parfois, on a vu avec la question d'ailleurs à l'instant, c'est intéressant, inintelligible pour le grand public. La majorité de Gérard Larcher réunit ainsi son parti. LR, 145 sièges pour LR, c'est énorme. L'Union Centriste, présidée par Hervé Marseille, UDA, 42 membres. qui appartiennent à l'opposition de droite modérée, 15 au centre macroniste, tendance modem, si cette majorité sénatoriale n'est pas menacée. Non, on ne peut pas être député sénateur en même temps, il faut choisir, pour répondre à une question. Si cette majorité sénatoriale n'est pas menacée, les rapports de force interne détermineront la répartition des postes clés. Les trois groupes de gauche, donc socialistes, 64 sièges, c'est beaucoup pour les socialistes, communistes, 15 sièges, et écologistes, 12 sièges, espèrent, eux, atteindre dimanche la barre symbolique des 100 sénateurs. A priori, vous voyez, il n'y a pas de sénateurs LFI. Socialistes et communistes misent sur la continuité, même si ces derniers, les communistes, ont beaucoup à perdre. D'une part parce qu'ils ont beaucoup de sénateurs renouvelables, hein, 11 sur 15. D'autre part parce que les communistes redoutent justement la concurrence de LFI, présente partout, mais en dehors de toute alliance, puisque, vous le savez peut-être, on vous l'a déjà expliqué ici, il n'y a pas d'alliance à gauche de la NUP, de la NUPES, pour ces élections sénatoriales. À gauche, ce sont les écologistes qui affichent les plus grands espoirs de progression, comme lors du renouvellement partiel de 2020. Europe Écologie Les Verts mise sur sa bonne moisson des dernières municipales, puisque les délégués des conseils municipaux vont représenter 95% des électeurs sénatoriaux, 95% du cortège, du collège, pardon, du collège électoral sénatorial, en fait, est formé des délégués des conseils municipaux. Voilà, là vous savez qui vote. Hein. Ce sont des conseillers municipaux à 95%. Autre parti puissant à l'Assemblée nationale mais absent du Sénat, la France insoumise. Les insoumis espéraient des listes uniques de la NUPES au sein desquelles ils auraient négocié une place éligible, mais les alliés, les socialistes, les communistes, les écologistes ont dit non. Les insoumis, ok, mais cette union de la gauche n'a pas été reconduite par ses partenaires au sénatorial, pas plus que dans la perspective d'ailleurs des européennes. D'ailleurs, c'est un des sujets de tension entre LFI et les partenaires de la NUPES, le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord électoral au sénatorial et aux européennes à venir, les socialistes, les écologistes et communistes disant, attendez, on aura de meilleurs scores si on part séparément, venez pas nous casser les bonbons avec votre histoire d'unité, quoi. Peux-tu nous faire la liste exhaustive des grands électeurs, Samuel, ou toi non plus, tu sais pas exactement? Bah, essentiellement des conseillers municipaux, et puis je pense qu'il y a des conseillers régionaux, voilà quoi. On voulait qu'on regarde, allez, c'est parti. Électeurs des... On va mettre collège électoral plutôt, ça va être plus simple, plus clair. Collège électoral sénateur. Donc on a vu 95% des conseillers municipaux. Hop. Et le reste, c'est quoi alors? Allez, ministère de l'Intérieur, des Outre-mer, sénatorial, mode d'emploi, c'est parti. Ok. Bon, 90% là, délégués des conseils municipaux, la Croix dit 95%. Alors, qui vote? Les sénateurs votent. Les députés votent. Les conseillers régionaux, je vous le disais, élus dans le département concerné, votent. Les conseillers départementaux votent. Les délégués des conseils municipaux, qui sont donc 90-95% de ce collège électoral, et les membres des assemblées territoriales pour certaines collectivités comme Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie. Vous savez tout. Voilà. Si vous n'êtes pas dans cette liste, vous ne votez pas. Voilà. C'est clair? Des questions? Merci Soliès pour le soutien. Merci beaucoup. Alors, How Many Roads écrit et a raison en disant que les insoumis ne sont pas représentés au Sénat parce que maillage territorial inexistant. Le souci de LFI, c'est que son électorat, on le retrouve surtout dans les grandes agglomérations. Et puis, ils n'ont pas trop, dans leur stratégie, ils n'ont pas trop mis l'accent sur... la politique locale aussi. C'est juste aussi parce que certains s'interrogent, disent, oh, le Sénat ça sert à quoi à part coûter de la thune? Et How Many Roads répond justement à cette question. Le rôle du Sénat, c'est de représenter les territoires. Merci Clara Miel, c'est gentil. Il est pensé comme étant un outil de modération moins volcanique que l'Assemblée. Au Sénat, ça travaille de manière plus calme, moins d'animosité, c'est vrai. Souvent, il y a un travail sur les textes, un travail de qualité du côté du Sénat. C'est mignon. Bonne journée, Liberty. Bon stream. Tout Tout à fait, ouais. Cyril, ce qui est dingue, c'est que si Macron mourait maintenant, Larcher deviendrait président par intérim. Oui, c'est normal. Dans l'ordre protocolaire, le président du Sénat, qui est donc Gérard Larcher, est le numéro 2, en fait. Et si jamais, comme quand Pompidou est mort, par exemple, est-ce que c'est Alain Poher, le président du Sénat de l'époque? Je ne sais plus. Je crois que oui. Si le président Macron venait à disparaître, eh bien c'est Gérard Larcher qui serait président par intérim. Voilà, c'est arrivé notamment sous Pompidou. Voilà, pour ça vous savez tout. Ouais, Poher, président par intérim deux fois, exactement. Bon, après, il n'est pas censé prendre des décisions importantes, quoi. C'est de l'intérim, quoi. Hein? D'ailleurs, Arnaud croit savoir qu'en fait, il ne devient même pas président par intérim. Il exerce les fonctions de président sans en récupérer la fonction. Ah! Enfin, tu écris. Ouais, faut à vérifier, parce que tu dis il exerce les fonctions de président sans en récupérer la fonction. Bon, c'est subtil, mais peut-être. Oui, c'est pour mener les affaires courantes, exactement. Et Zératol me rappelle que en cas de vacances du pouvoir comme ça, le président par intérim, on va dire ça comme ça, est chargé d'organiser dans les 3 mois une élection. Voilà. Ouais, exactement. Est-ce que je me fais un petit café? Rapide, rapide, rapide. J'ai un autre article sur les sénatoriales de Libération, un vote en vase clos et on va parler du rugby, ok? 1h51, ouais, j'ai mérité, non. Ah, je l'ai la blague, c'est une blague de vieille personne. Il y a Cyril, je dis, je vais me faire un petit café et Cyril nous dit dans sa culotte. Alors, il faut avoir plus de 80 ans pour comprendre cette blague, donc je vais l'expliquer aux plus jeunes. Alors, c'est l'histoire de Toto en fait, hein. C'est une histoire de Toto. C'est Toto qui est dans la rue. Toto, c'est un petit garçon qui dit beaucoup de bêtises. Et donc, qui aborde les gens et leur demande « Bonjour, monsieur. » Faut toujours commencer poliment quand il y a une blague derrière. « Bonjour, monsieur. Est-ce que vous connaissez le petit café ?» Et la personne interrogée dit « Non, Toto. De quel café veux-tu parler? De quel établissement où tu peux te sustenter, te rafraîchir veux-tu parler? De quel café veux-tu parler? Est-ce que vous connaissez le petit café? » Non, non, Toto. Et Toto répond, le petit café dans sa culotte. Voilà, c'est la petite blague de Cyril dans le chat. C'est pas une blague de daron, c'est une blague préhistorique en fait. Je la faisais quand j'avais 5 ans, cette blague. Voilà. Donc, il y a 265 ans. Voilà. Bon, 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 voilà. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ok. On est d'accord que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un dans le chat qui l'a fait. Le petit café dans sa culotte. Voilà, c'est fin, ça se mange sans fin. Exactement, Émile. Je vous mets une mini pause musicale ou publicitaire, ça dépend si vous êtes abonné. Et on se retrouve juste après. Je vais vous mettre une belle chanson. Qui pourrait être ça, par exemple? Hop, hop, trop fort, j'ai monté le son à fond pour la vidéo de YouTube. Excusez-moi pour les oreilles. Bright Night. Pas mal ça, on se met ça. Je vous mets 2 minutes de musique, on se retrouve dans 2 minutes pour parler un petit coup des sénatoriales, pour parler de rugby, pour parler de ce que vous voulez. Je vous embrasse fort, bande de belles personnes, c'est parti pour la musique. À tout de suite. Pain, 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 pain. Tout de suite. Sweet lullabies, sing.
sing for me sweet lullabies.
Ok. Et on arrête. Quoi ? Je vais faire bientôt un petit truc dans l'univers de Billy, de Rebeu des Terres. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il sera creusé. À suivre. À suivre. Non, pas Nagui, Billy. Vous êtes fou, quoi. Oh, c'est trop mignon. Merci Samuel, belle interlude, tu as fait danser ma petite de 9 mois qui, je ne savais pas, adore le rock. Oh, c'est trop chou, c'est trop mignon, c'est adorable. Non, c'était pas un Babybel, j'ai mangé des crocodiles Haribo. Je crois qu'il y avait un jaune et je crois qu'il y avait un rouge. Shiva, merci pour le Prime. Trop bien. On envoie la force à Clem, ce qui part en cours. Quel jour on est ? Vendredi. Eh bien, bon courage à toi. C'est reparti. Dernière ligne droite de cette revue de presse. Petit article de Libération sur les sénatoriales après celui de la Croix. Un vote en vase clos. Sacadale, merci pour le 11e mois d'abonnement. Affaire d'initié, vous l'avez compris, qui se déroule loin des radars médiatiques. Hein, on ne vous en parle pas beaucoup. Hein, qui repose largement sur les élus locaux, vous l'avez compris. Le scrutin de dimanche renouvellera donc la moitié des membres du Palais du Luxembourg. Le vote des sénatoriales se différencie des autres par son mode de scrutin, à la fois indirect et double, hein, parce que ça je ne vous l'ai pas dit encore, mais si on rentre dans le détail, c'est un scrutin qui est à la fois majoritaire et proportionnel, ça dépend du nombre d'habitants qu'il y a dans les départements. Son corps électoral, vous l'avez compris, les gens qui votent, ce sont des élus, les grands électeurs comme on les appelle, même s'ils font 1m50, qui élisent les membres du Palais du Luxembourg pour un mandat de 6 ans. Le vote est obligatoire. Tiens donc, parce que parfois on parle du vote obligatoire en France, il l'est pour les grands électeurs. Si tu ne votes pas, tu as une amende de 100 euros. Voilà, donc c'est obligatoire. Le collège électoral se compose de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux, départementaux, municipaux, qui représentent 95% des quelques 78 000 grands électeurs du CRU 2023. C'est donc le même chiffre que la Croix tout à l'heure. Renouvelé de moitié tous les 3 ans, nos Nîmes, merci pour le 8e mois et le soutien. Le Sénat est donc élu d'abord par les communes, notamment c'est important par les communes rurales qui sont surreprésentées. Pourquoi ? Parce que celles-ci désignent en effet les communes rurales, proportionnellement à leur population, davantage de grands électeurs que les villes urbaines plus peuplées. Depuis 1958, cette donnée a toujours avantagé qui ? La droite, mieux implantée dans les territoires ruraux. Pour les sénateurs rééligibles, la campagne consiste donc à faire la tournée, non pas des télés, mais plutôt des mairies hein, du département, pour séduire ce drôle d'électorat que sont les conseillers municipaux. C'est une campagne un peu bizarre. Affaire d'entre-soi, d'initié. L'élection ne donne lieu à aucun débat à la télévision, hein, ou alors j'en ai raté. Aucune baston publique entre candidats ou tractage sur les marchés. Le scrutin reste donc largement hors des radars médiatiques. Voilà. C'est pour ça que vous n'en avez pas entendu parler. Sauf ici, bien sûr, et chez Jean Massier, parce qu'on est un peu dédingue. Voilà. Alors, certains, un peu mauvaise langue, estiment que... Je vous ai vu, hein, notamment Hugo. Salut, ça va et Sean, que 100 euros d'amende pour ces élus, c'est pas forcément beaucoup. Rappelez-vous qu'il y a des élus municipaux qui, parfois, gagnent pas beaucoup. Hein. Les mauvaises langues disent que... Pour certains sénateurs, 100 euros, c'est peut-être le prix du croissant ou encore du ticket de métro, quoi. Voilà. Alors ça, c'est pour les sénatoriales. Et on va finir par cette Coupe du Monde de rugby, ce match hier, France-Namibie, qui pose problème pour moi, mais j'ai l'impression d'être le seul à voir du mal dans cette histoire. Je vous rappelle donc Les épisodes précédents, Coupe du Monde, à domicile, on rêve, on croise les doigts très fort pour voir la France gagner cette Coupe du Monde avec cette Dream Team. Premier match de poule gagné contre les All Blacks, en gros ça nous assure quasiment la qualif pour les quarts parce que dans le reste de la poule c'était qui déjà en deuxième match? Zut. L'âge, la fatigue. Deuxième match des Bleus, c'était contre l'Uruguay. Voilà. Donc, et match un peu brouillon de l'équipe B, mais gagné. Contre la Namibie, aucun suspense, 96-0. Et bon, l'Italie, bon, sur le. Oui, alors les Italiens peuvent toujours créer la surprise sur un match, mais si on aligne la meilleure équipe de France possible, il n'y a pas photo non plus sur l'Italie. Donc, en battant les All Blacks, on est quasiment sûr d'arriver au quart. Et là, les choses sérieuses commencent. Sauf que là, hier. On apprend déjà avant le match que Galtier, le sélectionneur Fabien Galtier, a décidé d'aligner son équipe type, meilleure équipe possible contre les modestes, sans leur faire injure, namibiens, hein, sans doute parce que la victoire un peu étriquée contre l'Uruguay a laissé de mauvais souvenirs, peut-être pour faire jouer les cadres, peut-être pour qu'ils aient du temps de jeu, pour qu'ils travaillent les automatismes, tout ça, j'entends, mais sur le coup, avant le match, quand je vois que les meilleurs joueurs de l'équipe de France sont alignés contre la Namibie, où il n'y a aucun suspense possible sur le résultat et même sur le bonus offensif. Enfin, je veux dire, à quel moment on peut ne pas remporter le bonus offensif contre la Namibie? Enfin, pardon. Et là, je me dis tout seul le matin, 12 heures avant le match, c'est chaud quand même si un de nos meilleurs joueurs se blesse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en perd un et peut-être le meilleur. On perd le capitaine. On ne sait pas quand il va revenir. Antoine Dupont, blessé, fracture au niveau des maxillaires. Voilà quoi. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour l'essentiel. En tout cas, tout le monde tremble pour Dupont. C'est le titre du Parisien. Le capitaine des Bleus, on pense bien à lui. Sorti après un choc tête contre tête avec le Namibien Johan Dezel, il a rejoint l'hôpital pour passer des examens. Le staff redoute une fracture de la mâchoire. Vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer un petit texto à Fabien Lartaud. Mathieu, putain, je suis fatigué. À Mathieu, putain, sur les prénoms ce matin, ça ne va pas du tout. À Mathieu. Alors, j'ai toujours eu un problème avec les prénoms, ça se voit quand je suis fatigué. Alors Mathieu, t'es où, Mathieu? Hello Mathieu, virgule. On a un débat ce matin sur Twitch, point. Je suis d'avis que c'était quand même très risqué d'aligner contre la Namibie nos meilleurs joueurs, virgule, au risque de la blessure, point. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on aurait pu laisser à nouveau les cadres sur le banc, virgule, pour les préserver pour la suite de la compétition, point interrogation. Voilà. Nous avons besoin de tes lumières. Je t'embrasse, virgule, et j'espère à très bientôt, virgule, à quand tu veux. Mathieu avec deux T, ouais. Bon, donc, Mathieu, on a un débat ce matin sur Twitch. Je suis d'avis que c'était quand même très risqué d'aligner contre l'ennemi nos meilleurs joueurs, au risque de la blessure. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on aurait pu laisser à nouveau les cadres sur le banc pour les préserver pour la suite? Ça a bugué. De la compétition, nous avons besoin de tes lumières. Voilà, un petit sourire quand même, parce que hein, on lui demande un petit analyse gratuite. Je t'embrasse, j'espère. À très bientôt, à quand tu veux. Voilà. Mathieu, voilà. On va demander l'avis d'un spécialiste. Peut-être qu'il va nous répondre en direct, ce serait super cool. C'était la fête parfaite. Le feu d'artifice attendu, un stade Vélodrome déchaîné, 8 essais l'espace d'une première période en feu d'artifice des Bleus qui effacent à grand renfort de débouler contre de très faibles Namibiens. L'impression brouillonne laissée face à l'Uruguay. À la 46e minute, l'ambiance retombe d'un coup. La Namibie franchit l'embute du 15 de France, d'abord pour la première fois du match, premier essai, il va être refusé. Mais tous les regards des spectateurs se tournent vite vers un homme à quatre pattes sur la pelouse du stade Vélodrome, la tête baissée vers le sol. Antoine Dupont est prostré, le demi de mêlée et capitaine des Bleus, pourtant réputé dur au mal, ne se relève pas. Le ralenti montre un choc bien plus violent qu'on l'imaginait, tête contre tête, infligé par Johan Dezel, trois quarts centre namibien qui porte d'ailleurs aussi le brassard du capitaine. Carton jaune, vite transformé même en carton rouge après l'analyse de la vidéo, et essai annulé pour la Namibie, d'où le 96-0. Protocole commotion, comme le veut le règlement du World Rugby en pareil cas de figure, mais le joueur a très rapidement dû quitter les entrailles du stade marseillais pour filer à l'hôpital. On a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire, donc une hausse de la mâchoire. On va attendre les examens pour avancer, a déclaré le sélectionneur Fabien Galthié au micro de France Télévisions. Il semblait inquiet. En conférence de presse jeudi soir, le sélectionneur attendait encore des nouvelles en direct du docteur Philippe Turblin. Une fracture de la mâchoire pourrait signifier la fin du mondial pour Toto. Il y a MMG qui me met les images du choc. Ah bon, je ne l'ai pas vu moi. Parce que j'étais avec vous en live. C'était dans Télématin. Ok, merci, merci MMG. On regarde rapide.
Une victoire assombrie par la sortie prématurée du capitaine Antoine Dupont.
Ouh. Après ce choc tête contre... Oh putain!
Pour être précis, les suspicions de fissure ou de fracture sur le maxillaire. Il est parti faire les examens.
À la sortie du stade, des supporters satisfaits, mais inquiets pour leur meilleur joueur.
Moi, il y a une équipe de France qui m'a rassuré aujourd'hui. Malheureusement, Antoine Dupont, je crois qu'il s'est fait mal. Nous, on le voit pas sur le match.
On croise les doigts qu'il aille. Franchement, c'est un super joueur.
Prochain match de l'équipe de France, vendredi 6 octobre, contre l'Italie.
On va revenir sur ce match avec vous, Laurie.
Mayal, ok, Télématin. On regarde.
Une victoire assombrie par la sortie.
Excusez-moi, je veux voir le choc. Il joue quoi là? Il est haut, hein.
Antoine Dupont, après ce choc tête contre tête.
Ouais. Bon, vous avez peut-être tous vu les images. C'est fou, hein. Ouais, comme le dit il lui me dit, tu as un homme de 100 kilos et plus qui arrive dans ta mâchoire, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est fou, hein. Et il arrive bien lancé, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'était mon sentiment. Black Diamond confirme, hein. Il est en haut, il est pas sur le ballon, hein. Il ferme les yeux en plus, parce qu'il ferme les yeux. Enfin, il est trop haut, quoi. Carton rouge, ouais. Donc voilà, est-ce que Mathieu nous a répondu, ce serait tellement cool. Fais-moi un casse-couille, moi. Pas de réponse pour l'instant. Il était au commentaire au match hier. Hein. Alors, fin de l'article du Parisien là-dessus. Si le forfait de son partenaire du Stade Toulousain et de la charnière Romain Tamac a été déjà un coup dur pour les Bleus, puisque Romain Tamac ne participe pas à ce mondial, une blessure de Dupont serait encore plus catastrophique, nous dit le Parisien. Parce que son absence laisserait un vide béant dans cette équipe où son talent et son aura lui ont donné le rôle de capitaine au cours du mandat de Galthié. Antoine Dupont n'est pas le capitaine le plus gueulard de l'histoire du rugby français, mais il s'est poussé dans les vestiaires ses partenaires qui ne cessent de clamer son importance. Il est le symbole, le meneur de cette génération, la star d'une équipe, meilleur joueur du monde en 2021, ce facteur X rassurant qui doit mener la France au titre mondial qu'elle espère et qu'elle attend tant, puisque vous savez que la France n'a jamais gagné le mondial de rugby. Oh merci, vous êtes trop gentil. Anak, moi si tu peux, la streameuse qu'on a découvert il n'y a pas longtemps là, qui fait un travail extrêmement intéressant sur sa chaîne de lutte contre les arnaques, notamment contre les brouteurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais pourquoi j'arrive pas à accéder à ta chaîne? Ah voilà, tout simplement parce que je ne suis pas très très doué des doigts en fait. Merci beaucoup. On est en fin de revue de presse, on est en train de parler de la Coupe du Monde de rugby et de la blessure d'Antoine Dupont, voilà, qui va le priver de toute ou partie du mondial. On espère son retour en quart ou en demi. Voilà, arnaque-moi si tu peux. J'embête les brouteurs, hein, les arnaqueurs. Ils me détestent, je les adore. Prévention et information concernant le sujet, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me suis penché sur ce travail, allez-y les yeux fermés. Voilà, c'est vachement bien fait. Je te suis au moins, je te suis, hein. Oui, je te suis bien sûr. Voilà, hop, on vient au mondial de rugby et merci encore pour le raid. Les Bleus ont désormais 2 semaines de break avant d'affronter l'Italie. Plombé par la crainte de tout sélectionneur, voir son meilleur joueur sortir sur blessure au cours d'un match de poule anodin. Bon, pour la plupart, vous dites que la polémique, pas que j'essaie de lancer parce que je suis pas un homme de polémique, mais que je que j'essaie de lancer quand même en vrai, quoi. Que d'aligner nos meilleurs joueurs face à un ennemi, c'était pas l'idée du siècle. Vous êtes tous, vous me dites, il faut du temps de jeu. On pouvait pas laisser les cadres comme ça pendant plusieurs semaines sur le banc, quoi. Ouais. C'est juste que moi, le matin, j'y ai pensé à ça, même. Donc, confirmation, hein, c'est une fracture, no way. L'équipe le dit, mais le France Info l'a dit aussi, on l'a vu en début de stream tout à l'heure. Alors, Levski nous dit que, au vu de la blessure dont souffre Dupont, certains joueurs, parfois, on peut jouer avec une protection 2 à 3 semaines après. Donc, ce serait OK pour l'écart, quoi. T'inquiète, c'est prévu, hein, Mathieu Lartaud à la maison, c'est prévu. Il est déjà venu, mais il va revenir parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vous lis. Alors, on avait un message un peu optimiste sur le retour de Dupont. Attini, lui, est pessimiste ou elle sur ce genre de fracture. En principe, pas de sport collectif ou de combat pendant 3 ou 4 mois. Bon, après, c'est des super-héros, les gars. Dupont ne reviendra sûrement pas. Alors, Ronan, tu as raison. On a vu cette info tout à l'heure. À ce jour, il reste dans l'équipe Dupont. Hein. Il n'est pas forfait. Hein. Il a 2 semaines. Il a 2 semaines de pause avant l'Italie. Et puis et après, je ne sais pas combien de jours derrière le quart, mais en gros, il est sur 3 semaines, 1 mois de repos, quoi. Ça le fait, hein. Ça le fait en vrai, quoi. J'aurais été sélectionneur, phrase débile, perso, j'aurais fait un mix dans ce match contre la Namibie des cadres de l'équipe A et de l'équipe B, qui a été bien puni quand même après le match précédent raté. J'aurais fait un mix, j'aurais vraiment laissé les meilleurs comme Dupont sur le banc, et j'aurais fait jouer Dupont contre l'Italie, où l'Italie est quand même un client autrement plus sérieux que la Namibie. Donc voilà, et du coup ça aurait fait du temps de jeu et du match, une montée en puissance pour Dupont et d'autres avant le quart, quoi. Bon, mais après, qui suis-je pour dire ce genre de bêtises, quoi. Comme dit Ribon en se moquant de moi, heureusement que t'es pas sélectionneur. Hors sujet, mais tu annonceras quand le prochain invité de Samplay. C'est sur les réseaux, c'est annoncé. Dimanche, on reçoit, il est là, Jiraya, l'ami Jiraya, voilà, qui va me faire découvrir toutes les subtilités de l'univers de Mario Kart. Je pense qu'on va se régaler. 20h dimanche, voilà. Ce que ne sait pas Jiraya, c'est que j'ai des années et des années d'entraînement et il ne va rien comprendre. C'est tortue rouge dans ta gueule, c'est tortue bleue à 2 cm de la ligne d'arrivée, c'est banane déposée au millimètre, voilà. Ça shoot en marche arrière, ça shoot en marche avant, ça shoot en l'air, il ne va pas voir la piste en fait. Ne lui dites rien. Non, on va bien se marrer, et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Armel Rose, merci beaucoup pour le 21e mois d'abonnement. Alors, on va se fendre la gueule. À quand Ponce dans Samplay, quand il veut. Il est invité, Ponce. Il viendra, j'en suis sûr. Bah, il est loin maintenant. Hein. Mais Ponce, il vient. Il va venir sur la saison. Hein. Mais je sais pas quand encore. Alors, ceux qui étaient là hier soir savent que hier soir, on a fait l'horoscope du Parisien, et en plus l'horoscope du Parisien d'aujourd'hui, puisqu'il était tard et on avait déjà le journal. On va refaire le petit jeu de l'horoscope, voilà, en espérant que ce ne soit pas les poissons qui gagnent, puisque les poissons qui ont gagné, parce que ça nous obligerait à lire le même. Voilà. Donc je vais vous donner, deuxième chance exactement, je vais vous donner une petite question sur l'actu. Question sur l'actu, qu'est-ce que je vais vous demander ? Qu'est-ce que je vais vous demander sur l'actu ? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous demander ? Qu'est-ce que tu as ? Je vais regarder un peu dans mes notes sur l'actualité. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous demander sur l'actu ? Moi, je sais pas. Ah, si, je sais. Oh, putain, là, c'est pour récompenser les fidèles. Ok. Ceux qui suivent ces streams cette semaine. Donc il me faut sur la même ligne votre signe astrologique et la bonne réponse. Cette semaine, j'ai évoqué une femme humoriste qui va venir bientôt dans l'hebdo Étienne, peut-être la semaine prochaine, qui vient de quitter Quotidien. C'est parti. Vous l'avez. Attends, je vérifie parce qu'il me faut la bonne orthographe aussi, parce que je suis chiant là-dessus. Donc c'est pas Blanche Gardin. C'est pas Blanche Gardien non plus, parce qu'elle ne joue pas au foot. Ça n'est pas Dalida, c'est Alison Wheeler. Hop, il y a un portrait d'ailleurs dans Le Parisien cette semaine. Alison Wheeler, et c'est un modo qui a gagné. C'est presque triché ça, hein. C'est MMG qui a gagné. Bon, en même temps, c'est mon signe, donc ça me fait plaisir. Ok, donc si je lis bien, je crois que c'est MMGCTF qui a gagné avec Taureau. Est-ce que les modos, vous pouvez me le confirmer? Alison Wheeler, qui donc vient de quitter Quotidien pour se lancer dans son One Woman Show et une grande tournée, et qui sera, je crois, peut-être dès la semaine prochaine, invitée de l'Hebdo Étienne. On va se régaler. On retourne à l'horoscope, et donc c'est Taureau. Ok, c'est bien Taureau, vous confirmez les modos, hein, c'est ça? Ok. Alors, Taureau, ça m'arrange, c'est mon signe, hein. Cœur, pensez-vous arrondir les angles avec votre attitude peu amène? Ok, donc ça veut dire, traduit en langage un peu moins châtié, Taureau, Samuel Etienne, vous êtes un connard, vous comportez mal, vous parlez mal aux gens, pensez-vous arrondir les angles avec cette attitude peu amène? Bon, c'est pas terrible, c'est le cœur. Pourtant, je suis gentil, moi, comme gars à la maison. Enfin bon. Réussite, vous aurez à faire face dans les affaires à un dossier particulièrement confus ou hermétique. C'est vrai, c'est tellement vrai, c'est ma vie, je vis quelque chose de très compliqué en ce moment. C'est scientifique, c'est l'horoscope, c'est incroyable. Tonus oscillant au niveau de la forme, voilà. J'aurais préféré être tonus au sommet, mais c'est oscillant, voilà, qui oscille exactement. Ribon TV pense que dans cet horoscope Taureau, on aurait pu lire à propos de Samuel Etienne, vous avez un avis désastreux sur Antoine Dupont. Trop mignon. Voilà. Vous en parlerez un jour de ce truc énervant là, que je vis là. Oh là, là. Saloperie ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde si l'ami Mathieu nous a répondu. Pff, en direct live. Mathieu Lartaud vient de nous répondre en direct à notre question. Ah, c'est beau ça, hein. Je vais te lire tout de suite. Il est incroyable. Dans le live. Je vais vous donner le verdict de Mathieu qui doit sans doute dire que mon analyse est pourrie. Voilà. Je vais me faire massacrer par le meilleur. Alors, qu'est-ce que dit Mathieu ? Donc Mathieu Lartaud, que j'ai sollicité en DM tout à l'heure, en lui demandant ce qu'il pensait sur est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt laisser Dupont sur le banc. Salut Sam. Bon, j'avais tort, hein. Non, il était impossible de laisser les gars sans jouer entre le 8 septembre et le 6 octobre. Il faut du rythme à haut niveau, atteindre des intensités que seuls les matchs t'apportent. Et c'est comme ça que tu continues de renforcer ta cohésion collective. Ce débat est un faux débat franco-français. Les Sudaf et les Irlandais, par exemple, jouent tous leurs matchs depuis le début de la Coupe du Monde avec leur équipe type. Et tout le monde les trouve super forts. Et eux, c'est bien. Mais nous, non. Voilà. Parce que le rugby implique de la casse, des risques de blessures graves comme celle d'Antoine Dupont. C'est comme ça. On ne peut pas jouer au rugby dans du papier bulle ou en jouant un match par mois sur une Coupe du Monde qui en compte 7. Voilà. Donc, vous aviez deviné d'ailleurs, mon analyse était pourrie. C'est confirmé par le meilleur des spécialistes des commentateurs du rugby français. J'ai nommé Mathieu Lartaud, le GOAT. Donc, Mathieu, un grand merci. Voilà. Et voilà. Et vous aviez raison, en fait, parce que vous pensez comme Mathieu. Voilà. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, quand même. Mathieu, merci. Voilà. C'était le sentiment général du chat. Point. Mon analyse était pourrie. Virgule. Et tu viens de le confirmer. Point. J'espère que tu passes bientôt sur cette chaîne. Virgule. Quand tu veux. Virgule. En tout cas, tout le monde est très heureux de te voir de retour pour commenter les matchs. Point. Prends bien soin de toi. Mon analyse. Ouais, un petit sourire. Hop. J'espère que tu passes bientôt sur cette chaîne. Quand tu veux, en tout cas, on est très heureux de te voir de retour pour commenter les matchs. Prends soin de toi. C'est un impératif. On enlève le S. Voilà. Quel champion. Voilà. Bon, bah Mathieu, il dit comme vous, en fait. Pasgetti, merci pour le 12e mois d'abonnement. Et merci à vous pour ce matin. Bon, ben voilà. Petit stream court, hein. Petit stream court, 2h22. Et maintenant, c'est aussi pour ça que ce stream est court, on se retrouve ce soir pour l'Hebdo Étienne. Dimanche soir, donc, 20h, hop, l'ami Jiraya dans Ça me plaît et Mario Kart. Et ce soir, voilà nos invités. Donc, on se retrouve ce soir pour revenir sur pas mal... d'actu qu'on a évoqué ce matin et de cette semaine. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alison Wheeler, ce serait cool de l'inviter aussi. Mais Sarité, Alison Wheeler, elle est pas. Elle est plus qu'invitée. Elle est calée. Je crois qu'elle vient la semaine prochaine. Elle est calée, Alison. Elle vient. Voilà. Grâce à une vidéo que j'ai fait à côté d'une autruche. C'est une vraie histoire. Alison Wheeler va venir sur cette chaîne, je crois, la semaine prochaine, à la suite d'une vidéo que j'ai faite avec une autruche. Voilà. Donc, les amis, on fait comme d'hab. Je vous propose de me proposer dans le chat, là maintenant, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live. Et dans 2 minutes, on raid tous ensemble cette personne pour la soutenir. Non, pas ça, j'ai dit. Ouais, ça. Je crois que c'était la musique du début du stream, mais je l'aime bien. Ok ? On se retrouve dans 2 minutes et on fait un raid tous ensemble. On ira soutenir quelqu'un. A tout de suite. Bande de beaux gosses.
You know what?
On va être dans 20 secondes. J'ai trouvé. On reste dans 10 secondes. Et c'est parti. La destination est toute trouvée. Il y a l'ami Rive Rivendi qui est en live actuellement, qui est un passionné de sport, qui est un passionné de rugby notamment, et justement il est sur la Coupe du Monde, il est notamment sur le cas Antoine Dupont. On vient d'en parler, le raid est en train de se lancer, soyez heureux, rendez les autres autour de vous. Bon vendredi, bonne fin de semaine, on se retrouve à 20h pour l'hebdo Étienne, dimanche à 20h pour Ça me plaît, je lance le raid. Et dites, qu'est-ce que vous pourriez dire à Rivenzi? Je lui dis, je sais pas qu'est-ce que vous pourriez dire à Rive. Salut beau gosse, salut BG. C'est le petit message qu'on lui fait passer. À ce soir, merci pour tout. Ciao, ciao.